Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Excellent Père de gloire, merci pour ce moment que nous allons encore passer ensemble avec ta faveur et ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la vie de chacun de nous. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous donnes la grâce d'être en communion avec toi, de marcher avec toi, de plaire à Dieu grâce à toi, d'être transformé, d'être renouvelé par toi, de gloire à gloire en Jésus-Christ. Amen.
Alors, quelqu'un a demandé comment on gère le stress quand il y a des problèmes. On en a parlé déjà un peu hier. La première chose, c'est toujours se rappeler le contexte général. À savoir que le problème n'est pas un malheur qui arrive, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est normal. Je donne souvent l'exemple d'une femme enceinte. Si une femme devait tomber enceinte, ne pas savoir ce que c'est, commencer à sentir tous les signes, tous les symptômes, tous les malaises, toutes les douleurs, et pire accoucher en se demandant qu'est-ce qui se passe, sans savoir quelle est la prochaine étape, sans savoir combien de temps ça dure, sans savoir que c'est normal, imaginez qu'elle deviendrait folle, probablement qu'elle va même se suicider, parce que ce serait invivable. Mais à partir du moment où on sait que c'est normal, c'est dans la destinée de toute femme. C'est même souhaitable, c'est-à-dire c'est paradoxal. Il n'y a rien de plus compliqué qu'une grossesse, rien de plus pénible qu'un accouchement. Mais paradoxalement, quelle femme imagine sa vie sans accoucher? Et quand pour une raison ou une autre, une femme n'a pas l'occasion d'accoucher, regardez tout ce qu'elle est prête à faire pour avoir un enfant. Et pourtant, elle sait très bien que dès que le processus de la grossesse commence, c'est des problèmes qui commencent. Et beaucoup de femmes, ils laissent même leur vie lors de l'accouchement. Mais ça ne change rien au fait que l'obsession de toute femme sera toujours d'avoir des enfants. Mais leur état d'esprit, leur stress varie, diminue à mesure qu'elles comprennent ce que c'est, qu'elles savent que c'est normal, qu'elles se préparent à ça, qu'elles ne sont pas surprises, déçues ou énervées parce que ça arrive, mais parce qu'elles savent que c'est une bénédiction que ça arrive. Et le paradoxe le plus évident, qui est d'ailleurs confirmé dans la vie, c'est le cas du travail. D'ailleurs, dans la Bible, on parle des douleurs de l'enfantement, du travail de l'enfantement, pour parler un peu de la naissance spirituelle de quelque chose. C'est-à-dire que le pire moment dans un processus de gestation, donc de création d'un enfant, c'est paradoxalement quand vient l'heure de la délivrance. Et l'heure de la délivrance correspond à un accroissement extraordinaire de la douleur, de la souffrance, du péril, du risque de mourir. Donc paradoxalement, quand le pire moment en termes de douleur arrive, c'est aussi le meilleur moment en termes de joie parce qu'on dit « ouf ». La fin est proche. Ouf, l'enfant est sur le point de sortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut comprendre que les modes opératoires, le style de Dieu est toujours le même. Hein. Et la manière dont il régit quelque chose comme la gestation, donc la conception, la grossesse, l'accouchement d'un enfant, est globalement le même processus que celui de la conception, de la gestation, de la croissance et de l'accouchement d'une vie, d'une destinée, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc, quand vient l'heure de la délivrance, quand s'approche la victoire, le travail n'est que plus grand. Regardez Jésus. Les gens l'insultaient un peu tout ça. Mais globalement, ces 33 ans se sont passés assez calmement. Bien au contraire, c'était héroïque. C'était la gloire quasiment. Mais quand il s'est approché de l'objectif final, quand sa victoire allait naître, quand la mort de Satan allait être scellée, quand ce pourquoi il est né allait s'accomplir, les trois derniers jours, les trois, la nuit qui l'a précédé, exactement comme pour la naissance d'un enfant, quand le travail de la victoire à la croix a commencé, en une nuit, il avait plus chaud que toute sa vie réunie. Mais le temps à peine de découvrir qu'il est en train d'avoir chaud, même si une nuit, c'est pas drôle, naît la plus grosse victoire jamais imaginée, la victoire sur Satan, Satan donné en spectacle, la mort vaincue, la résurrection scellée, ainsi de suite. Et c'est toujours le même processus dans la vie. Donc, paradoxalement, l'intensité des problèmes n'est souvent que proportionnelle à la phase de la gestation dans laquelle vous êtes. Au début d'une grossesse, quelques nausées, quelques petits problèmes qu'on gère, d'accord. Mais quand le travail commence, vous pouvez pas imaginer un travail où vous ne sentez que rien n'a changé. Et d'ailleurs, on dit souvent, je l'ai même relu hier dans la Bible, ça doit être dans Corinthiens 13 ou Romains 13, je ne m'en rappelle plus. Plus sombre est la nuit, plus proche est le jour. Dans Corinthiens, on dit plus précisément, dans Corinthiens ou Romains, je ne sais plus, la nuit est sombre, donc le jour approche. Ça veut dire la même chose exactement. Donc, parfois, quand vous avez l'impression que tout est foutu, que tout est cassé, que tout est dangereux, que tout est pourri, c'est généralement le moment même où enfin, on va voir le bout du tunnel. Si vous tenez bon, parce que dans la nuit qui a précédé la victoire, mais Jésus aurait pu craquer et faire des concessions à Satan. Il aurait pu craquer, refuser d'aller à la croix. Personne ne l'aurait forcé. Comme il dit, on ne m'a pas pris ma vie. Je l'ai donnée. Donc, jusqu'au dernier moment, Jésus avait la capacité de décider que ça, là, c'est trop. Moi, je ne suis pas dedans. Je refuse de faire ce boulot-là. Qu'est-ce qui serait passé? Donc, dans les épreuves, jusqu'au dernier moment, vous avez toujours la possibilité de faire un pas de plus, jusqu'à ce que l'enfant naisse comme une femme. Quand ça chauffe, là, il y a des femmes qui disent, mais non, moi, je suis fatigué. Mais immédiatement, soit on les baffe, soit on les anesthésie pour les opérer. Parce que c'est quasiment criminel que de dire, bon, maintenant, moi, je suis fatigué, je ne pousse plus. Imaginez le moment qui dit ça. Maintenant, moi, je suis fatigué, je ne pousse plus. Ils risque de mourir, l'enfant risque de mourir. C'est pareil dans votre vie. Quand vous arrivez à un certain niveau de problème et que vous n'avez pas la force de dire, c'est quand même une vie qui va naître, c'est pas tous les jours, encore un peu petit effort, ça va arriver. Souvent, les femmes disent que les hommes ne souffrent pas. Mais toutes les souffrances ne vont pas sur une table d'accouchement. Il y a bien des choses qu'on gère dans la vie. Et qui sont en fait le processus de l'accouchement. Mais il faut tenir. Il faut encore pousser un peu. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dormir. Ce n'est pas éternel. Le bébé va bientôt sortir. Vous allez en être fier. Toutes vos souffrances vont subitement paraître comme un nuage dès que l'enfant apparaît. Et c'est pareil dans des destinées. Il y a des gens qui se voient pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils échouent. Le jour où ils font un gros coup, ils deviennent milliardaires. On dit, ah, il est chanceux. Il n'est pas chanceux. Ça fait longtemps qu'il pousse. Le travail vient simplement de se terminer. Il vient d'être délivré, comme d'ailleurs dans l'expression de l'accouchement. Donc, vous devez intégrer cela. Parce que quand vous avez le mauvais état d'esprit, quand vous comprenez mal ou de travers ce qui se passe, vous avez un stress, une souffrance énorme qui vient moins de la situation que de la manière dont vous vivez la situation. C'est pas pour rien que Jésus dit par exemple à la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'était pas le moment pour Jésus dire, ils vont voir, je vais me venger, c'est des méchants. Ça ne ferait qu'accroître sa douleur. Regardez bien, quand les gens vous persécutent, quand vous avez l'impression qu'ils font exprès, qu'ils sont de mauvaise foi, vous souffrez beaucoup plus que quand vous avez l'impression que celui qui vous persécute ne sait pas ce qu'il fait. Quand vous avez par exemple un adulte qui détruit quelque chose qui vous est cher, qui casse un bijou qui vous est précieux, qui vous casse ou bien, quand par exemple, si un de vos amis vous achetez une voiture neuve et un de vos amis vient gratter ça avec un caillou, ça va vous énerver plus que si un petit enfant de 1 an prend un caillou et gratte votre voiture. Dans les deux cas, ça vous énerve, mais pas de la même manière. Quand celui qui a fait l'acte, vous le supposez conscient de ce qu'il a fait, que vous estimez qu'il a prémédité, cela vous énerve toujours beaucoup plus que quand vous estimez que celui qui a fait l'acte ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez jamais réalisé ça. Quand vous estimez que le coupable ne sait pas ce qu'il fait, vous avez 1000 fois moins mal que quand vous croyez que vous êtes convaincu qu'il sait ce qu'il fait. Donc ce n'est pas par hasard qu'à la croix, Jésus ne voulait pas se stresser pour rien. Il préfère considérer qu'il ne sait pas ce qu'ils font, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Ça change énormément son niveau de stress. Donc, le stress, je redis donc, vient davantage de votre manière de vivre les choses que des choses. Même quand on dit qu'au boulot, on est stressé, le stress c'est quoi? C'est la tension, c'est la perturbation créée par le fait d'être tiraillé en plusieurs choses qui vont dans des directions différentes. Et si des choses vous tiraillent dans toutes les directions, que vous-même, vous n'avez pas une force interne qui est capable de les canaliser dans la direction de votre choix, ou d'harmoniser toutes les directions dans lesquelles vous êtes tiré, rapidement vous êtes écartelé, et comme toute personne écartelée, vous avez mal. ou mal au cœur, ou mal au bras, ou mal quelque part. Vous allez avoir mal. Quand quelqu'un est cartelé, il a bien entendu mal. Vous êtes là. Tant que vous avez un objectif là, et puis un là, bon, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Étape 1, étape 2, étape 3. Parfait, il n'y a pas de stress. Mais quand subitement, un objectif naît ici, un autre naît là, un autre naît là, un autre naît là, et puis vous avez des objectifs qui vont dans toutes les directions, la question c'est tu vas où? Tu vas là, ou tu vas là, ou tu vas là, ou tu vas là, ou tu vas là, tu vas là. Là, on a envie de devenir fou. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et en règle générale, comme toute chose qui est écartelée en différents points, on ne bouge plus. Si vous prenez, par exemple, n'importe quel objet, par exemple une nappe ou un torchon, vous attachez des fils à ces différents coins, vous le tirez dans toutes les directions, il ne bougera pas. Ou bien, on ne peut pas bouger quand on le tire dans toutes les directions. Et donc, vous allez voir que dans votre travail, dans votre vie, quand vous commencez à tirer dans toutes les directions, vous ne bougez pas. C'est physique. Parce que les forces qui vous tirent se neutralisent. Vous ne pouvez aller dans une direction que si à un moment, la force, par exemple, qui va dans cette direction-là, est beaucoup plus forte que les autres, vous allez avoir tendance à aller par là. Même si c'est entraînant, vous allez aller par là. Si plutôt c'est par là que la force est dominante, vous allez aller plutôt par là. Et si on met fait deux forces, vous allez avoir tendance à aller un peu en diagonale comme ça. Mais c'est une question de force. Le secret pour ne pas être stressé, c'est de gérer les forces qui vous tirent dans toutes les directions. Il y en a qui faut simplement casser, dire, moi ça là, je déconnecte ça. Je me déconnecte de toi, je me déconnecte de toi, je me déconnecte de toi. Bon, à la limite, ces trois-là, je peux les gérer. Parce que globalement, ces trois-là, il y a au moins un faisceau assez cohérent, je peux me permettre de naviguer là. Mais aller dans toutes les directions, je refuse. Je coupe les trois autres. C'est ça qu'on appelle la stratégie. C'est ça qu'on appelle la planification en cas d'urgence. Quand vous êtes tiré dans toutes les directions, vous devez à un moment avoir des critères pour décider quelle pression vous acceptez et quelle pression vous arrêtez. Ne serait-ce que pour le moment. On ne peut pas poursuivre plusieurs devoirs à la fois et en attraper un. C'est vrai que dans la vie, vous aurez toujours plusieurs choses à faire. Mais les choses seront toujours capables de se regrouper par groupe homogène. C'est-à-dire par groupes qui ont globalement la même direction, la même finalité. Donc, quand vous êtes tiré de toutes parts, faites d'abord, parce que ça encore c'est un autre problème. Beaucoup de gens ne peuvent même pas vous dire qu'est-ce qui les tiraille. Ils savent juste qu'ils sont stressés, ils ne peuvent pas vous dire qu'est-ce qui les stresse. Ça, c'est la plus grosse erreur. Vous devez au moins savoir qu'est-ce qui vous stresse. Je suis stressé parce qu'à la fois, je dois gagner de l'argent, je dois m'occuper de ma maman qui est malade, je dois m'occuper de mes enfants, je dois travailler, je dois. Il faut faire la liste de ceux qui sont en train de vous tirer, qui vous posent problème. Maintenant, vous les regardez ensemble pour voir, mais parmi ces choses-là qui me tiraillent, lesquelles on peut mettre ensemble? Parce qu'elles vont globalement dans la même direction. Les problèmes d'argent sont globalement les mêmes problèmes. Quel que soit ce que vous voulez faire avec l'argent, tout ce qui a rapport à l'argent va dans la même direction. C'est de trouver l'argent la solution. Tout ce qui a rapport à votre santé va plus ou moins dans une même direction. Tout ce qui a rapport à votre travail va dans une même direction. Après, maintenant, quand on rentre dans les détails, on peut avoir encore des bons moments. Vous devez réunir les choses par catégorie. Et vous devez être capable de prioriser maintenant les catégories. Je ne parle pas encore de prioriser les actions dans chaque catégorie. Hein. D'abord de prioriser les catégories. Est-ce que la priorité, c'est de chercher des gros diplômes? Est-ce que la priorité, c'est de chercher de l'argent? Est-ce que la priorité, c'est de m'occuper de mes enfants? Est-ce que la priorité, c'est de me marier? Quand vous avez plusieurs défis à relever, même s'ils sont tous importants, il faut pouvoir dire qu'est-ce qui est le plus important des importants. Qu'est-ce qui vient en deuxième position? Qu'est-ce qui vient en troisième position? Ou parfois, quelles sont les deux choses prioritaires? Quelles sont les deux choses qui viennent ensuite? Quelles sont les deux choses ou les trois choses qui viennent en dernière position? Il faut un minimum de classement. L'idée étant que quand vous avez peu de temps, vous commencez par les choses les plus importantes. Mais je précise que vous ne pourrez jamais savoir ce qui est important si vous n'avez pas préalablement défini d'objectif. Parce que la notion d'importance là, ça veut dire ce qui est décisif, ce qui est déterminant pour l'atteinte de l'objectif. Donc rien n'est important pour celui qui n'a pas d'objectif. Et ce qui paraît important à celui qui n'a pas d'objectif n'est pas généralement si important que ça. Si mon objectif, mon obsession, c'est de maigrir, il y a des choses que je ne peux pas décider de trouver important. Me faire plaisir par un bon repas, un bon vin, un peu de coca, un peu de gâteau, c'est des choses qui sont importantes pour se faire plaisir. Si on veut être de bonne humeur, oui. Mais ce n'est pas des choses qui sont importantes quand on attend de suivre un régime. Donc, tout dépend de quelle est votre priorité. Ah, franchement, moi, j'ai trop travaillé, il est temps de me faire un peu plaisir. Oui, il y a des choses qui sont importantes. Va prendre un bon verre, va manger un bon gâteau, fais-toi plaisir, prends une glace. Ça, c'est important si ta priorité, c'est d'être de bonne humeur, c'est de te faire plaisir. Mais si ta priorité, c'est que tu as un diabète, tout ceci, c'est ça, c'est de maigrir, ça inverse complètement l'ordre de priorité des choses. Donc, vous devez connaître quels sont vos objectifs. Si vous voulez gagner de l'argent juste aujourd'hui pour régler un problème, vous vous en foutez de demain. Ce qui est important pour vous n'est pas ce qui serait important pour quelqu'un qui dit « Je veux bien gagner de l'argent aujourd'hui, hein, mais moi, ma priorité n'est pas aujourd'hui. C'est « Je veux être définitivement riche pour toujours. » Quitte à être pauvre aujourd'hui, je veux être sûr que je vais en croissant dans ma richesse et pour toujours. Ce n'est pas la même chose que dire « Peu importe ce qui se passe demain, moi, je veux l'argent d'aujourd'hui. » Ce qui peut paraître acceptable à celui qui est prêt à n'importe quoi pour avoir de l'argent aujourd'hui, ne paraîtra pas souvent acceptable à celui qui est prêt à ne pas avoir d'argent aujourd'hui, mais pour peu qu'il en ait demain. Certains vous diront, moi, jamais je ne volerai. C'est parce que par rapport à ses objectifs, le vol n'est pas pertinent dans sa stratégie. C'est même dangereux. Mais il y a des gens qui s'en foutent de demain. Ils veulent juste bouffer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour leur dire qu'il n'est pas bon et il n'est pas sage de voler? Si le but c'est d'avoir l'argent aujourd'hui, peu importe ce qui se passe demain, bien sûr qu'il est sage de voler. Ah oui? Et quand on voit des gens qui sont prêts à n'importe quoi, on est surpris, c'est parce qu'ils n'ont pas le même objectif que vous. Et moi, j'ai par exemple été dans des milieux où je dis, mais moi j'ai un nom. J'ai une réputation. J'ai une crédibilité. À la limite, la seule chose que j'ai à vendre, c'est ça. Mais vous tombez sur des individus qui n'ont aucun nom. S'ils ont une réputation, c'est d'être des bandits, d'être des brigands. Donc, on ne peut rien leur ajouter à ce point de vue. C'est réputé être des escrocs. Ils ont dit oui aujourd'hui, demain ils ont dit non, après demain ils ont dit oui, non, non, même pas honte. Ils sont déjà connus pour être des faux et ça ne dérange plus personne. C'est comme ça qu'ils sont connus. Ce que gars comme ça peut faire, moi je ne peux pas le faire. Parce que ce qui est important pour lui, c'est de monnayer sa vie d'aujourd'hui, il s'en fout de demain, il n'a plus rien à perdre. Or, moi, tout ce que j'ai, c'est ce dont lui s'en fout. Je ne peux pas avoir la stratégie que lui a. Vous devez analyser les choses pour décider qu'est-ce qui est urgent. Urgent, ça veut dire que ça ne peut pas attendre. Parce que dans la gestion du temps, il faut toujours faire ce tableau-là. Là, vous avez le zéro, là, vous avez l'axe du temps, et là, vous avez l'axe de l'importance. Il y a globalement quatre cadrans. On peut mettre 1, 2, 3, 4. Si je prends le temps, ce qui est ici, c'est ce qui est moins urgent. C'est-à-dire, ça peut attendre. Ce qui est ici, c'est ce qui est plus urgent. Ça ne peut pas attendre. Là, c'est ce qui est moins important. Là, c'est ce qui est plus important. On est d'accord? Les choses les moins importantes, les choses les moins urgentes. Quand on monte sur l'axe, c'est qu'on va en importance, en urgence quoi. Et en montant là, on monte en importance. Ça veut dire que en deux, nous avons les choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Personne n'est con. Si vous avez ces quatre catégories de choses à faire, la quatrième chose à faire, donc la dernière, c'est ça. C'est ce qui n'est ni important ni urgent. De toute évidence, là, au 3, nous avons la catégorie des choses qui sont à la fois urgentes et à la fois importantes. De toute évidence, c'est la première des choses à faire, si on est intelligent. Parce que c'est important, c'est urgent. Important, urgent, je donne un exemple. Quelqu'un pique une crise cardiaque. C'est important parce que c'est quelque chose qui peut briser l'objectif essentiel de sa vie, sa propre vie. Rien ne peut être plus important que de sauvegarder une vie. Donc, celui qui a une crise cardiaque, il est à l'article de la mort. Donc, c'est important. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça peut attendre? Quand on a une crise cardiaque, on meurt en quelques minutes. D'accord? Mais si quelqu'un a un palu, c'est important de le soigner parce que, bon, sa vie est menacée. Et encore, selon qu'il est un enfant, une femme enceinte ou pas, le niveau de menace de sa vie n'est pas le même. Donc, l'important, c'est déjà moindre. Quant à l'urgence, personne ne meurt de palu parce qu'on l'a soigné demain au lieu de soigner aujourd'hui. À moins qu'il y ait déjà des antécédents. Mais on peut mourir d'une crise cardiaque ou d'une appendicite parce qu'on vous a soigné quelques heures trop tard. Donc, en termes d'urgence, une appendicite est plus urgente qu'un palu. Et une crise cardiaque est plus urgente qu'une appendicite. Mais le tout est important en matière de santé, même s'ils n'ont pas le même niveau d'importance. Important, urgent, c'est une crise cardiaque. Non important, non urgent, j'ai une grippe. Tu risques pas d'en mourir, c'est pas une affaire de jour. C'est vrai que la santé, c'est important, mais tu te soignes pas. Dans tous les cas, personne n'est jamais mort d'une grippe. On est d'accord? Maintenant, là où il y a match, donc on considère que, à moins d'être idiot, c'est évident que tout le monde commencera par là, l'urgent et l'important, et tout le monde terminera par là, le non-urgent et le non-important. La vie se joue là et là. Vous avez là les choses qui sont urgentes, parce qu'on est là, mais non importantes. Et là, vous avez des choses qui sont importantes, mais non urgentes. La question c'est, vous choisissez quoi en troisième et quoi en deuxième? Vous faites quoi avant quoi? La plupart des gens qui gèrent mal leur temps et qui passent leur vie à courir sans atteindre aucun objectif, se disent qu'il vaut mieux, c'est pas qu'ils se disent, ils subissent ce qu'on appelle la tyrannie de l'urgence. Ils passent leur temps à faire tout le temps des choses urgentes, sans importance, et ils n'ont jamais le temps de faire les choses importantes, mais non urgentes. Or, ce qui donne des résultats, c'est ce qui est important. Quand vous passez votre journée à faire des choses qui sont urgentes, mais qui n'ont aucune importance, à la fin de la journée, vous avez travaillé. Mais à l'heure du bilan, vous n'avez rien à présenter parce que vous êtes dans le domaine des non importants. Non importants, ça veut dire que ça n'intéresse personne. Alors qu'ici, il y a des choses qui intéressent les gens, mais qui ne vous pressent pas. Ça peut toujours attendre. Ça attend, mais ça ne donne aucun résultat. Je vais vous donner un exemple. Quand le téléphone sonne, c'est urgent, on a quelques secondes pour décrocher. Mais on ne sait jamais d'avance si c'est important ou pas. Ça peut être un ami qui appelle pour niaiser, pour bavarder. Ça peut être quelqu'un qui appelle, il s'est même trompé. Comme ça peut être un appel qui va générer une vente de 20 millions. On ne sait pas. L'appel peut prouver qu'il était important. Comme il peut n'avoir aucune importance. Mais dans tous les cas, il est urgent. Quand, par exemple, un collaborateur ou un collègue vous appelle pour vous parler d'un problème personnel, c'est urgent parce qu'il dit « je veux te voir ». Souvent, même comme vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous êtes pressé de l'entendre. Donc, c'est urgent. Mais parfois, il vous dit des choses. Ce n'est pas mauvais de l'aider. Et ce n'est pas important pour vous. Et si on devait vous juger à la fin de cette journée, même si vous avez passé 2 heures avec lui, c'était urgent de le passer. Mais ça n'avait aucune importance. Vous ne pouvez pas écrire ça quelque part comme bilan. Le problème, c'est que comme l'urgent nous met la pression, on a inconsciemment tendance à remplir sa journée d'urgence non importante. Les fonctionnaires sont champions. Les réunions, j'ai une réunion au ministère, j'ai une réunion à la préfecture, ils sont tout le temps dans les réunions. Ils sortent des réunions, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont décidé, ne sait pas. Qu'est-ce que ça a apporté, ne sait pas. Ils font des réunions, vous créez le comité de ci, le comité de ça. Les comités ne servent qu'à prendre des PDM. Ils ne peuvent jamais vous dire qu'est-ce que le comité a fait. Et c'est ça la vie des politiciens et des fonctionnaires. Passé, ou même des gens qui travaillent en général. Le téléphone sonne, il y a une réunion, on est en train de faire ci, en train de faire le suivi. C'est des choses qui donnent l'impression de ne pas pouvoir attendre. Mais qui n'apportent, c'est pas que ça n'apporte rien, mais ce que ça apporte n'est pas le plus important pour vos objectifs. À l'opposé, vous avez là des choses qui sont très importantes, mais que personne ne vous bouscule pour faire parce que ce n'est pas urgent. Se décider à aller voir des gros clients capables d'acheter pour des millions, il n'y a rien de plus important que ça, mais rien ne vous bouscule pour ça. On ne peut le faire pas aujourd'hui, on peut le faire demain. Ça n'a pas sonné, quelqu'un ne vous a pas appelé. On s'est dit, bon, ça c'est pas grave, c'est important, je vais. Se remettre au sport, c'est important, mais ça n'a aucune urgence. Faire du régime, c'est important, mais ça n'a aucune urgence si vous êtes trop gros. Prendre des résolutions, par exemple, pour pouvoir prier davantage, passer plus de temps en communion avec Dieu pour régler tous les problèmes de votre vie, on sait tous que c'est important. Mais personne ne nous bouscule. Et comme personne ne nous bouscule, on ne le fait jamais. Toutes les questions qu'on pose ici reviennent toujours à dire, mais comment je fais pour connaître la Bible? Comme tout le monde sait très bien, Dieu merci au cœur de Jésus pour ici, qu'il n'y a rien de plus important que de prendre le temps de connaître la Bible. Mais comme personne ne nous bouscule pour faire ça, combien de personnes se donnent au moins 10 minutes par jour pour lire la Bible? Or, il n'y a rien de plus important que de maîtriser ça. On le sait tous. C'est pas qu'on ne le sait pas. Mais on nous presse pour faire des choses que nous faisons. Mais personne ne viendra jamais vous presser pour lire la Bible. Et parce que personne ne vous presse, vous ne le ferez jamais. Conclusion. Les gens qui échouent leur vie sont des gens qui se lèvent dominés par l'urgence au point de mépriser l'important. Donc, ils courent beaucoup. Ils sont plus fatigués que tout le monde. Mais personne ne les applaudit jamais. Parce qu'ils ont couru à faire des choses qui n'ont aucune importance. À côté de ça, il y a des gens qui disent, moi, franchement, l'urgence, vous me foutez la paix. De temps en temps, oui, mais je prends l'initiative, je refuse, j'organise mon temps. Je veux d'abord faire l'essentiel. Qu'on me bouscule ou pas, je fais violence sur moi-même. Comme le dit Paul, je rachète le temps. Je me donne pour priorité de faire ces choses parce que moi, je m'en fous de courir. Je veux le résultat. Ça suppose toujours une violence sur soi. Mais celui qui arrive à faire en sorte que les activités de la catégorie 4 deviennent les premières et que celles de la catégorie 1 deviennent les deuxièmes et que celles de la catégorie 1 deviennent les troisièmes vont aller très loin dans la vie. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de bilans. Ils vont avoir beaucoup de résultats. Mais la plupart des gens qui se laissent aller feront exactement l'inverse. Ils mettront 2 ici, ils mettront 3 là. Et ils passeront leur vie à courir, mais ne faisant rien d'important, donc rien à vendre. Donc, le défi de la gestion du temps est du stress. Parce que quand vous gérez mal votre temps, vous êtes stressé. Vous subissez les choses au lieu de les décider. Quand vous décidez de vous occuper de ça, vous devenez un peu plus maître de votre temps et de votre vie. Et notez bien, on ne peut pas être maître de ce qu'on ne gère pas. On ne peut pas gérer ce qu'on n'est pas capable de mesurer. On ne peut pas maîtriser ce qu'on ne gère pas. On ne peut pas gérer ce qu'on n'est pas capable de mesurer. La plupart des gens ne sont pas capables de maîtriser leur temps parce qu'ils ne sont pas capables de le gérer. Et ils ne sont pas capables de gérer leur temps parce qu'ils ne mesurent pas leur temps, ils ne suivent pas leur temps. Si vous prenez par exemple au Bénin, il n'y a pas 1% des cadres et des intellectuels béninois qui utilisent un agenda. Pire, quand vous êtes quelque part, vous dites, qui a un agenda ici par exemple? Il n'y en aura pas beaucoup. Lui, il en a. Ton agenda là, est-ce un agenda ou un cahier? Entre nous. S'il l'a amené, ce n'est pas parce que c'est un agenda. Il l'a amené pour prendre des notes. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez agenda Move 2012. Ce n'est pas l'agenda qu'il a, c'est le cahier qu'il a. Combien vous l'utilisez? Si vous prenez l'agenda aujourd'hui, est-ce que ce que vous allez faire demain est écrit dedans? Ah, voilà. Mais celui qui gère son agenda ne peut pas commencer une journée sans avoir clairement décidé. On a vu ici le management, hein? Pensez à ce qu'on va faire. Faire, bien faire ce qu'on a décidé et repenser à ce qu'on a fait. plan, do, check, act. Planifier, faire, suivre et évaluer. C'est valable en termes de gestion du temps. Celui qui veut gérer son temps doit commencer à se dire, qu'est-ce que, comment on dit, penser à comment il va faire. Je suis au début de l'année. Qu'est-ce que je veux avoir fait à la fin de 2013? Pour avoir atteint ça à la fin 2013, qu'est-ce que je dois avoir fini en juin? Qu'est-ce que je dois avoir fini en septembre? Qu'est-ce que je dois avoir fini en décembre, par exemple? Par rapport à ça, si je prends le mois de janvier, quel objectif ai-je envie d'y atteindre? Et vous devez fixer pour chaque mois globalement, ou en tout cas pour les trimestres au moins, des objectifs. Quand vous commencez un mois, vous devez pouvoir dire, à la fin de ce mois-là, je veux avoir réglé tel, tel et tel problème. Même si je ne fais rien d'autre, ce n'est pas grave, mais que ces problèmes-là, je les ai réglés. Et à partir de cet objectif que vous êtes fixé pour ce mois, chaque semaine, vous pouvez vous dire, avant la fin de cette semaine, je veux avoir fait telle chose. À partir de l'objectif que vous avez pour la semaine, vous ne pouvez pas commencer un jour sans dire, aujourd'hui, je veux avoir fait telle, telle et telle chose. Et quand vous prenez votre agenda, vous devez pouvoir avoir des grands objectifs pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine, et prévoir des activités par jour. Pendant la journée, vous essayez de respecter autant que faire se peut les objectifs que vous êtes fixés pour la journée. Mais à la fin de chaque journée, vous devez reprendre votre agenda pour voir qu'est-ce que j'avais prévu, qu'est-ce que j'ai fait. Ai-je fait plus que j'avais prévu, ce qui est très rare? Ai-je fait moins que ce que j'avais prévu? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon pour ajuster mon agenda sur demain? Évidemment, vous pouvez avoir déjà prévu depuis même plusieurs semaines certaines activités pour demain. Mais en fonction de ce que vous avez fait aujourd'hui, ce qui a manqué, tout ça, vous réajustez le programme de demain. Demain matin, vous recommencez le combat. Et chaque jour, à la fin de chaque jour, quand moi je rentre, je fais le point de mon agenda. Qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je le fais glisser sur le lendemain. Ou quand je me rends compte le lendemain, il est surchargé, je le glisse sur le troisième, le quatrième jour. Mais quand je commence une journée, je sais les principaux objectifs que je veux atteindre. Au début, vous allez mettre trop de choses. Vous allez vous rendre compte que vous ne faites même pas 10% de ce que vous avez prévu. Et puis, avec le temps, vous allez vous ajuster. Bon, il ne faut pas que je mette tant de choses. Je dois réduire un peu. Il faut que je prévoie le temps pour l'imprévu parce qu'il y aura toujours des imprévus, ainsi de suite. Donc, vous devez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, avoir l'habitude de réflexe de définir d'avance ce que vous allez faire, de le faire et de contrôler comment vous l'avez fait pour en tirer des leçons pour le lendemain. Et vos objectifs au quotidien doivent être corrélés à vos objectifs sur la semaine. Vos objectifs à la semaine doivent être corrélés à vos objectifs sur le mois et sur l'année. On ne peut pas se dire, par exemple, cette année, je veux à la fin de l'année avoir au moins 10 millions de bénéfices dans mon compte ou d'économies dans mon compte. Parfait. C'est un objectif. Comment j'ai atteint cet objectif-là? Au niveau de mon loyer, qu'est-ce que je fais? Au niveau de ma voiture, qu'est-ce que je fais? Au niveau de mes revenus, qu'est-ce que je fais? Vous devez avoir un plan d'action. Et maintenant, vous fixez pour chaque partie de l'année, qu'est-ce qu'il vous faut avoir atteint? Si vous prévoyez de faire un chiffre d'affaires de 100 millions sur une année et qu'au 31 août, vous en êtes encore à 10 millions de chiffre d'affaires, c'est ou que vous avez un problème et il faut changer complètement de stratégie. Ou alors peut-être que vous aviez une activité saisonnière où, par exemple, le gros du chiffre d'affaires se fait entre septembre et octobre. Bon, encore, c'est peut-être ça. Mais on ne peut pas avoir prévu de gagner 10 millions en une année et puis en octobre, on a gagné 2 millions et puis on dit, bon, ça va aller, d'ici la fin de l'année, ça va aller. Ça va aller comment? Donc, vous devez tous les jours vous dire, ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment le plus important? L'autre tentation que nous avons, c'est que notre esprit étant paresseux, surtout notre corps, nous nous mentons beaucoup à nous-mêmes. Nous avons par exemple tendance à remplir notre agenda, ou bien, en dépit de ce qui est dans notre agenda, à remplir notre journée de choses qui en réalité ne valent rien, mais qui nous font plaisir. Quand il y a 1000 choses à faire, notre choix naturel de priorité n'est pas le choix de l'importance. C'est le choix du confort. Vous devez par exemple ranger des papiers dans votre bureau. Vous devez passer un coup de fil à quelqu'un pour lui rappeler quelque chose. Vous devez faire une photocopie. Et puis vous devez faire un rapport. Et vous devez écrire votre mémoire. On sait très bien que faire le mémoire est plus important que tout le reste. Mais quand vous arrivez au boulot, si vous devez vous laisser aller, on dit bon, je vais ranger d'abord. Je vais passer d'abord le coup de fil. Je vais d'abord faire facile. C'est-à-dire, on va vers les choses faciles en se disant que je suis quand même en train de travailler, c'est pas que je dors. Alors qu'on sait très bien, ou en tout cas on devrait savoir que tu peux remplir ta journée de ces choses-là. C'est bon, tu as travaillé. Mais toi-même, tu sais que l'essentiel qui te rend stressé, qui t'empêche de dormir là, tu n'as pas encore touché ça. Donc c'est comme si on se met à soi-même en faisant semblant de travailler pour ne pas avoir l'impression qu'on ne travaille pas. Mais quelque chose au fond de nous sait très bien que c'est comme si on n'avait rien fait. Et c'est ça qui crée le stress. Parce que tant que le rappeur est là, ça ne voulait pas faire, vous-même, vous savez que quelque chose en vous vous dit que tu ne peux pas dormir tranquille. Mais tous les jours, on vient au boulot, on touche tout sauf ça. Reportant toujours, c'est-à-dire, tous les prétextes sont bons pour reporter ça. Or, quand votre cerveau sait que c'est là, vous n'avez jamais la paix, vous-même, vous ne l'avez pas fait. Attaquez-le franchement et finissez-en. L'autre chose, vous devez savoir qu'il y a des choses qu'il vaut mieux dégager pour faire de manière franche en une fois que de le saucissonner. Parce que c'est comme les moteurs diesel ou comme certaines machines. Il y a ce qu'on appelle le temps de mise en route. Il y a des moteurs, vous les démarrez, ça prend immédiatement. Il y a des moteurs, vous les démarrez, il faut laisser le temps de chauffer tout ça, de passer à la vitesse supérieure. Quand vous voulez faire des choses comme une mémoire, un rapport ou des travaux de conception intellectuelle ou certaines choses, il vous faut, quand vous commencez, un temps d'abord pour rentrer dans le bain, pour sentir comme là maintenant vous avez démarré. Réunir les éléments, vous rappeler les exercices, vous rappeler les éléments, tout ça. Bref, vous mettre vraiment dans une situation où là maintenant, vous êtes comme un avion qui décolle. Vous décollez et à un moment vous atteignez votre vitesse de croisière. Si par exemple, c'est un travail qui peut faire 2 heures en continu, il vous faut parfois 15 minutes, 20 minutes, parfois même 30 minutes pour atteindre la vitesse de croisière. Si vous travaillez en continu, il faut en moyenne 30 minutes, maximum le temps pour avoir fait l'essentiel et peut-être une demi-heure pour réatterrir et sortir. Mais ce qui se passe à beaucoup de gens, vous commencez le travail. Vous prenez 30 minutes pour passer à vitesse de croisière. Quand vous êtes à 45 minutes, on vous perturbe. Un téléphone sonne, vous parlez au téléphone pendant 30 minutes, vous avez fini, tout est à reprendre à zéro. Le moteur est éteint. Vous n'avez plus envie de continuer. Vous êtes sorti du bain. Quelque chose d'autre va arriver, tout ça. Vous laissez le travail là. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous le reprenez dans une semaine, vous redémarrez encore le moteur pendant 30 minutes, 45 minutes avant de passer à vitesse supérieure. Ce n'est pas que vous le reprendrez là où vous étiez. Hein. On revient presque toujours à zéro, même si des choses étaient écrites. Le temps de se remettre dans le bain, de retrouver ses idées, de retrouver sa logique, on redémarre le moteur. Il y a un temps qui est perdu là. Si vous n'êtes pas bien organisé pour empêcher les perturbations d'arriver, c'est quand vous avez démarré qu'on vient encore vous perturber. Et comme ça, on traîne pendant des mois, parfois des semaines, un travail qui, si on s'était enfermé pour le faire, on l'aurait fini en une heure de temps. Ça coûte très cher de ne pas faire certaines choses d'un trait d'en finir. Quand un cheval veut sauter, il prend son recul, il l'accélère, il ne ralentit pas jusqu'à ce qu'il ait sauté. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut les faire, soit on les fait la nuit, soit on les fait très tôt le matin, soit on déteint son téléphone, on fait tout, on dit bon, maintenant, je me suis donné 30 minutes, je dois finir ce boulot, sinon je ne bouge pas. Quitte à veiller. Vous devez aussi savoir que tel que l'esprit fonctionne, il y a des choses que vous ne ferez que quand vous n'aurez plus le choix. Par exemple, personne n'est prêt à un examen jusqu'à ce que la date limite de l'examen arrive. Vous connaissez quelqu'un qui, avant un examen, a vraiment l'impression d'être prêt? Ça n'existe pas. On est prêt que quand on a obligé d'être prêt. Et c'est pareil dans l'homme. Si vous confiez un travail à vos collaborateurs, vous ne mettez pas de date limite, ils ne le finiront jamais. Parce qu'au moins, prétexte, ils le reporteront. Vous-même, si vous fixez des objectifs qui n'ont pas de date limite, vous aurez tendance à ne jamais le finir si ce n'est pas des choses faciles à faire. Il est important, quand on confie un objectif à quelqu'un, de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, de lui indiquer précisément les résultats attendus et comment on va les mesurer. Ça, c'est quelque chose d'important, la précision. Dire, essaie de me ramener un peu d'haricots, ça ne veut rien dire. Je veux 2 mesures d'haricots avant midi. Voilà une consigne. Ah, il faut essayer de faire en sorte que j'ai un rapport assez consistant, ça ne veut rien dire. Je veux un rapport de moins 100 pages, interligne 1.5 avant demain 17h. Vous devez, pour les autres et pour vous-même, être très précis. Quand vous vous dites, avant midi, je veux avoir fait ça. Avant le 15 décembre, je veux avoir réglé ça. Vous-même, cela devient un objectif, un challenge pour vous. Et vous pouvez avoir plus de motivation, plus d'efficacité à tenir dedans que si vous dites, bon, je dois faire ça. Vous devez être précis pour vous contraindre vous-même. Et à plus forte raison, quand vous donnez des consignes aux autres, vous devez être précis et mettre des dates limites pour les contraindre. Et il y a, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça sur Internet, il y a par exemple l'histoire célèbre. On dit quand vous prenez par exemple un bol, un vase, vous devez y mettre du sable. Peut-être après, non, du sable, des gros cailloux, de l'eau par exemple. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils remplissent d'abord le vase d'eau. C'est facile. Ils veulent mettre du sable, ça ne peut plus rentrer. Ça va déborder. À plus forte raison, ils veulent mettre après des cailloux. Ça ne va pas rentrer, le vase est déjà plein. Mais imaginez l'inverse. Vous mettez d'abord du gros caillou. Le vase est plein, il ne peut plus prendre de gros cailloux. On peut toujours mettre du sable dans un vase plein de gros cailloux. Et quand, alors que le vase est théoriquement plein de cailloux, vous mettez du sable, ça prend encore beaucoup de sable parce qu'il y a des trous entre. Quand théoriquement le vase est plein de sable, on peut dire que c'est fini. Mais ça peut encore prendre de l'eau. Parce que vous avez été de l'important à l'accessoire, il y aura toujours de la place. Quand vous aurez fini de placer les cailloux de problème que vous avez, il y aura toujours de la place où mettre du sable. Et encore plus de place où mettre de l'eau. Mais si vous remplissez votre journée d'eau agréable, vous n'aurez plus de place pour le sable et encore moins pour les cailloux. Vous serez dans le cas des gens qui passent leur vie à faire des choses agréables, mais sans aucune importance. Quand on a du boulot, on commence par le plus important. Le plus important, c'est presque toujours le caillou. Vous ne pouvez pas changer l'ordre des choses et vous en sortir. Évidemment, on peut décider pour des raisons de gestion, de son stress et de ses émotions, de dire, bon, il ne faut quand même pas remplir une journée rien que de choses compliquées. On ne peut pas, par exemple, se dire, tous les jours, pendant un mois, je vais travailler sur un rapport compliqué ou sur une thèse de 8h à minuit. C'est le même passage. Si c'est quelque chose qui doit durer longtemps, il faut par exemple dire, quand je me réveille tôt le matin, je suis frais. Je travaille sur ma thèse, par exemple, jusqu'à midi. L'après-midi, je vais faire mes courses. Quand je suis fatigué le soir vers 19h, c'est le moment peut-être de prendre mes mails. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est qu'il faut suivre son biorhythme. Chacun de nous a un biorhythme. C'est-à-dire, chacun de nous a son cycle d'énergie. Ça n'a rien d'ésotérique, hein. Ça, c'est de la biologie pure et simple. Il y a des gens qui se réveillent très en forme le matin. C'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à notre éducation, aux heures auxquelles on dort, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on fait comme sport, c'est lié à une série de choses. Mais il y a des gens, ils sont au mieux de leur forme, par exemple, entre 5h et 9h. À partir de 9h, 10h, ils sont groggy, ils ne sont plus bons à rien. D'autres personnes sont plutôt gens se réveillent à 9h à 10h. Et à se traîner jusqu'à 13h, 14h, c'est vers 15h que leur journée décolle. D'autres personnes, c'est à 10h que leur journée est puissante. D'autres, c'est vers 17h qu'ils sont en forme. D'autres, c'est à 19h qu'ils se sentent en meilleure forme. Il y a d'autres, c'est à 23h que maintenant, ils ont l'énergie. Vous allez voir, par exemple, des gens, et moi, je suis de ce genre, je peux veiller facilement. Si je décide de travailler, je peux travailler jusqu'à 6h du matin en partant de 20h à 19h, c'est pas un problème. Mais j'ai plus de mal à décider de me réveiller tôt pour faire un travail. Mais si je me réveille un jour et qu'à 5h, je suis en train de travailler, entre 5h et 9h, j'ai abattu le boulot de 10 jours. Ça, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi. Mais si je travaille un jour de 5h à 9h, je sais qu'entre 5h et 9h, j'ai fait ce que j'aurais pas fait en 10 jours ordinaires. Donc, chacun doit se connaître. De telle sorte que quand à un moment, j'atteins un niveau de saturation de choses à faire, je me dis, bon, aujourd'hui, là, il faut que je me débrouille. Pendant 2 jours, je suis au bureau à 5h. Avant 10h, j'ai fini ce que j'ai à faire. On doit se connaître et faire son agenda en fonction de ce qu'on sait de sa manière de fonctionner. Si vous êtes du genre, c'est entre peut-être jusqu'à midi que vous êtes en forme. Le soir, parce que vous mangez tout le temps yam pilé ou bien pété à midi, ou bien bas à midi. L'après-midi, vous êtes toujours fatigué. Vous avez une réunion importante avec un client. Ne planifiez ça pas pour le soir. Planifiez ça le matin. Pendant que vous avez des esprits éveillés, vous discutez avec lui. Par exemple, je sais que quand les Béninois mangent à midi, ils mangent trop lourd. Si vous faites un séminaire avec des Béninois, vous commettez l'erreur d'accepter une pause déjeuner à midi. L'après-midi, c'est plus la peine. Ils dorment. Donc moi, quand j'ai un séminaire à faire, je dis, vous faites pause café, mais personne ne mange jusqu'à ce que j'ai fini. Si vous avez prévu qu'on mange à 13h, qu'on reprenne à 14h pour finir à 16h, moi je fais mon séminaire en continu jusqu'à 16h, à 16h jusqu'à 14h, ou jusqu'à 14h30. Le temps que vous avez pris pour manger, la mettez-le à la fin. Mais si vous mangez entre les deux, moi je m'en vais. Parce que je ne connais pas de Béninois qui après avoir mangé me suit. Je ne vais pas perdre mon temps. C'est clair, je dis ça à mes clients. Donc vous ne verrez jamais faire un séminaire où les gens mangent à midi et le soir je leur parle. Autant les laisser aller faire leur sieste que de perdre du temps. Bon, quand tu connais des gens, tu t'amuses pas, faut préparer une formation, après qu'ils ont mangé, ils ont empilé. Surtout quand c'est l'entreprise qui offre la nourriture, ils veulent manger beaucoup pour ne pas gaspiller. Bon, alors, quand les gens voient les événements, ils veulent manger beaucoup. Un là, hein. Bon, quand les gens font des réserves dans leur ventre pour la maison, tu veux leur apprendre quoi après? Tu peux rien apprendre. Vous devez intégrer ces choses-là dans la gestion du temps. Et si vous gérez bien le temps, vous ne serez pas tiraillé. Il y aura toujours plein de choses qui essaient de vous tirailler. Mais vous serez capable de couper certaines passerelles pour ne pas sentir la tension des choses. Vous dites, il y a plein de choses à faire, mais là, je décide de me concentrer sur ces 3 volets-là. Ils vont dans la même direction et mon objectif est par là. Donc, tout ce qui va par là, c'est bon, mais on verra après. Vous vous occupez de ça, vous le réglez. Et l'autre chose aussi qui est très importante pour la gestion du temps, et c'est peut-être, je crois, l'une des plus grandes faiblesses du Béninois, je ne connais pas les autres Africains, en matière de gestion du temps, c'est la capacité à dire non. On ne l'en fait pas assez, mais le plus grand secret de la gestion du temps, c'est la capacité à dire non. Au Bénin, les gens sont majoritairement des hypocrites. Quelqu'un te demande un service. Tu sais bien que tu ne veux pas le lui rendre. Tu sais bien que tu ne le lui rendras pas. Mais il est socialement admis que vaut mieux le flatter en lui disant oui pour lui faire plaisir, en sachant très bien que tu ne le feras pas, que de lui dire clairement, mon frère, je suis désolé, ça je ne peux pas, je ne le ferai pas. Qu'il sache en même temps que tu ne le feras pas, qu'il ne perd pas de temps. Quand moi je vois les gens venir de l'extérieur, bien les Bénois qui sont restés un peu à l'extérieur, ils viennent, ah, j'ai fait le tour des entreprises, les gens sont très intéressés par le projet. Je dis, arrête de rêver, moi je suis au Bénin. Si 10 personnes t'ont dit qu'ils sont intéressés, tu n'en auras pas un demi quand les choses sérieuses vont commencer. Hein, Romuald? Ah, il y a des gens, ils vont nous parrainer, ils vont soutenir, ils vont financer. On en est où aujourd'hui? À combien qui ont déposé 25 francs? J'ai dit la même chose à Arnaud, je vous le redis. Moi, je parle d'expérience sur les Béninois. Les gens ont la bouche. Sur la bouche, là, tout le monde vous soutiendra. Tout le monde sera toujours intéressé par vos clients, par vos produits. C'est du bavardage. Qu'ils mettent la main à la poche, on en reparlera. Mais si vous êtes naïf, vous confondez les promesses avec les actions. Au Bénin, une promesse ne vaut rien. Le Béninois n'a même pas d'honneur. Il ne sait pas ce que ça veut dire que d'avoir perdu l'honneur. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui. Les Bénois sont nés trop tard. L'honneur était déjà né et mort, donc bon. Ils n'ont pas besoin avec l'honneur. Ils n'ont pas de parole. Quand un Bénois te dit oui, c'est en sachant que c'est non. Il dit, mais lui croyait que j'allais lui dire oui, quoi. Alors qu'il sait très bien que c'est non. Parce que la société trouve que les gens vont m'en vouloir si je dis non. Mais ils n'ont qu'à m'en vouloir. Moi, je vois bien que les gens, ils sont dans mon bureau et puis posent un problème. Et clairement, je dis non. Ils sont surpris. Mais qui va poser une question, c'est pas sûr que je réponde non. C'est comme si ils ne vous le disent pas, mais. Ils vont même dire, regarde, il est trop direct. Il n'aurait vraiment pu me blaguer. J'ai des gens qui ont dit ça. Les gens disent ça. Il dit, mais il est trop direct. Monsieur qui dit, mais là, je lui ai demandé. Même mon épouse, mais toi, tu es trop direct.
Tu aurais quand même pu les ménager. Dis, les ménager, c'est quoi? Les laisser espérer alors que je sais que je ne le ferai pas. Mais les gens savent. Il vient, vous dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, c'est que, bon, je vous aime beaucoup. Vous avez fait... Je dis, écoutez, ce n'est pas la peine de me baratiner. Allons droit au but. D'abord, il est surpris. Parce qu'il est habitué aux gens qui n'ont rien d'autre à faire. Et puis, bon, il est baratine. Vous êtes quelqu'un de très important. Vous faites bouger tout ça, là, je sais. Il ne faut pas me baratiner. Tu veux quoi concrètement? Le gars est surpris. Parce qu'il n'est pas préparé, il n'est pas habitué. Enfin, les gens disent, tu veux quoi concrètement? Et vous voulez que je fasse quoi? Il dit, tel, tel. Bon, ça, je ne peux pas. Ça, je ne ferai pas. Ça, ça ne me plaît pas. Ça, je suis contre. Ça, c'est pas normal. Mais ça, je le peux. Ça, ça, je peux. Je suis là, occupe-toi de ça, fais ça pour lui. Autre chose, je vous remercie, monsieur. C'est 5 minutes. Les gens sont souvent surpris dans les gens, mais c'est tout. Et vous voulez que je fasse quoi d'autre? Mais quelqu'un t'appelle au téléphone, je veux que vous fassiez une conférence quelque part. À combien? Je dis, c'est quel jour? Il dit, quelle heure? Il dit, quelle est la modalité? Je dis, gratuit. Il faut prévoir quoi pour vous? Rien du tout. C'est tout? Oui, ok. Il dit, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Je dis, mais non, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai dit, oui, je connais un endroit à combien. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Il ne faut pas faire de courrier. Non, c'est tout. Ça ne peut pas être tout. Et je suis parti à la conférence. Pourquoi les gens veulent que tout soit compliqué? Et si ce n'est pas compliqué, ce n'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi les Bénois ont peur du simple? Je disais, hier, c'est dans Romain, on disait quelque part, fuyez les choses qu'on ne peut pas faire à la lumière. Et j'ai dit, ça, c'est pour mon pays. Le Béninois n'aime que les choses qu'on ne peut faire que la nuit. Et non, ça, c'est un des principes que mon père m'a toujours enseigné. Et ça m'a été beaucoup utile dans toute ma carrière. Il dit, Edgar, c'est pas compliqué. Nous sommes dans un pays où les gens sont tellement lâches qu'ils font tous les coups dans le noir, dans la nuit, en sous-marin. Mais le Béninois regarde-le en face, joue carte, tu tables au soleil, il fuit. Et ça a toujours été ma stratégie dans la vie. Sur n'importe quoi, moi, je m'expose. Venez, on va en parler. Ils ne viennent jamais, le Béninois ne vient pas à la lumière. Mets-toi la lumière, aucun concurrent ne viendra. Vous pouvez vous croire, c'est les féticheurs, dans la délation, dans le mensonge. Manque de peau pour eux, ça encore, ils sont foutus. C'est ça leur problème. Mais dans la lumière, venez, on va en parler, tu ne verras jamais un Béninois. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions quand les gens ouvrent la bouche. Oui, c'est bon, excellent projet, je vais vous soutenir, je vais vous parrainer, je vais. Il ne faut pas rêver. Vous devez savoir où vous allez. Éliminez tout ce qui n'y concourt pas en disant non. Vous m'invitez un jour, j'ai prévu de dormir. Je dis non, je ne peux pas venir, j'ai sommeil ce jour-là, je dors. Je n'ai même pas besoin de vous mentir. Ah, venez faire telle chose tel jour. Je dis, à ce moment-là, je suis avec ma fille. À ce moment, je dis non. Mais si vous avez, regardez par exemple le temps que moi, je gagne à ne pas aller à des enterrements. Le dernier enterrement où j'ai été, c'était l'enterrement de ma grand-mère. Ça doit faire maintenant 2 ans. Avant elle, j'ai été à l'enterrement de qui? Je ne sais plus c'était l'enterrement de qui. En tout cas, je n'ai pas été à 10 enterrements au Bénin. Je les ai même peut-être 5. Dedans, il y avait mes 2 grands-mères. Il y avait qui encore? Il y avait une cousine directe. Et je peux compter sur le bout des doigts. Vous voyez, il faut que je réfléchisse pour compter le nombre d'enterrements auxquels j'ai été au Bénin. Mais regardez le temps qu'un Béninois met aux enterrements. Et quelqu'un comme moi, qui connaît le nom de personne que je connais, si je vais aller aux enterrements, vous voyez ce que ça pèse dans mon agenda? Tous les week-ends, tu as un enterrement. Enterrement, mariage, baptême, vous ne me verrez jamais. Si j'y vais, c'est vraiment que c'est un gars très proche. C'est le temps, le week-end, c'est pour dormir, pour s'amuser. Parce que la plupart des gens vont à ces choses-là en étant furieux. Oh, mais ce baptême-là maintenant, on va dormir, on a besoin d'aller à l'enterrement. Mais qui t'a forcé? Ah, si je ne veux pas, ils vont dire, s'ils disaient alors. La peur du qu'en dira-t-on fait que le Béninois fait trop de choses qui ne lui rapportent rien, qui ne vont en rien dans le sens de ses priorités, mais il n'a pas le courage de dire, ça là, ça ne me plaît pas, je n'y fais pas. Et dans votre budget, c'est pareil. Chaque enterrement, c'est des cotisations, c'est des tissus, c'est des niaiseries. Regardez, ça pèse trop lourd. Dis non, ne coûte pas si cher que ça. Quand vous dites non, ils vont dire quoi? Vous êtes un fou. Première chose, ça, c'est pas grave. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Deuxième chose, ils vont dire que oui, à ton papa n'est pas encore décédé, ta maman n'est pas encore décédée. Mais qui vous a dit que quand ils vont décéder, j'ai besoin de vous? Quand on perd un être cher, on a besoin de se recueillir pour pleurer. Pas d'avoir plein d'hypocrites qui font semblant d'être tristes alors qu'ils s'en foutent et que dès qu'ils sortent de votre maison, ils vont rire. Vous voyez pas que quand on réunit les gens pour les enterrements là, c'est la personne éplorée qui se fait de la peine. Il doit les nourrir, il doit les asseoir, il doit les gérer. Vous croyez que s'il n'y a personne à l'enterrement de mes parents, moi j'ai un problème? Qu'est-ce que leur présence change à la destinée de mes parents quand ils ont rendez-vous avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai à cirer de leurs enveloppes? Où est le problème? Ça vous pose un problème si vous avez fait des calculs sur leurs enveloppes? Si vous vous endettez pour faire un enterrement que vous avez fait des enveloppes, vous allez avoir un problème? Moi, je fais ce que je peux faire. Moi, ma grand-mère est décédée ici. Moi, je ne l'ai dit à personne. Pourquoi vous vous compliquez la vie? Pour éviter le stress, il faut... Par exemple, quand on t'invite quelque part, ça ne te plaît pas, tu dis oui. Toute la journée, là, tu as de mauvaise humeur. Cadeau. Est-ce que c'est la faute de celui qui t'a invité ou bien c'est ta faute? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Celui dont la règle est de dire non, quand c'est oui et oui, quand c'est non, il passe sa journée de mauvaise humeur, c'est la faute de qui? Il y a beaucoup de stress gratuit. Bon, non, je n'en parle pas parce que moi, je ne les connais pas. Mais c'est vrai qu'au Bénin, la plupart des stress sont des stress gratuits. Oui, vous avez un Zémidien, il arrive à côté de votre voiture, il prend sa main, il frappe en plein soleil, vous êtes dans la voiture, il frappe avec sa main en plein soleil sur du fer. Quelque chose. Mais qui doit avoir pitié de qui? C'est moi qui dois m'énerver ou bien je dois avoir pitié de celui qui se fait mal à la main en frappant du fer? Non, il faut remettre les choses dans leur sens et éviter de se stresser pour rien. Vous devez avoir l'un des principaux objectifs d'une vie, c'est la paix. Donc évitez tout ce qui détruit votre paix inutilement. Vous mentez, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous vous dites, tu es avec quelqu'un, vous perdez votre paix. Vous dites oui alors que vous n'avez pas envie, vous perdez votre paix. Vous décidez d'aller à un enterrement qui ne vous plaît pas, vous êtes en colère. Mais tout ce qui vous stresse, vous décidez d'être rancunier, vous perdez la paix. Une grosse partie du stress vient du péché. On perd la paix quand le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé quand on se loin du chemin de Dieu. Et la plupart des choses qui nous stressent sont souvent des futilités. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, la paix, elle l'arbitre dans votre cœur. Quand vous perdez la paix, c'est que vous êtes déjà loin de Dieu. C'est la sonnette d'alarme. Vous devez vous calmer, voir qu'est-ce qui a créé ça. Or, le Béninois ne vit que dans ça. Vous ne devez pas faire de concessions au stress. Ça fait vieillir. Ça va vous donner des rides. Ça va vous donner des ulcères. Ça va vous donner de l'hypertension. Ça va vous donner des cancers. Ça va chasser vos clients. Ça va chasser vos amis. Ça va vous créer des problèmes de couple. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a comme avantage. Et puis les gens aiment ça tant que ça. Et ça ne règle pas les problèmes. La Bible dit, lequel d'entre vous par ses soucis a déjà ajouté une minute à la durée de sa vie. Plus vous êtes de mauvaise humeur, plus votre capacité à régler les problèmes diminue. C'est comme dans un match de football. Quand vous êtes énervé, la qualité de votre jeu baisse toujours parce que vous perdez votre concentration. Donc un grand joueur sait que s'il doit avoir peur d'une chose, c'est que l'ennemi ou plutôt l'adversaire l'énerve et lui fait perdre son calme. C'est pareil dans la vie. Quand Satan vous fait perdre la paix là, il joue avec vous. Vous devez rapidement vous calmer et retrouver la maîtrise de vos émotions. Et donc, pour reconnaître la source de votre problème, quand vous découvrez que la perte de la paix est l'alarme, c'est un peu comme les allergies. Quand vous faites l'allergie, par exemple, la première fois, on ne se rappelle même plus qu'est-ce qui a créé. Mais si vous faites souvent des allergies, les médecins finiront par vous dire, dès que, par exemple, le bouton apparaît, ou dès que vous commencez à éternuer, dès que vous avez telle chose, regardez qu'est-ce que vous avez mangé les deux dernières heures. Et quand vous prenez l'habitude, vous finirez par réaliser qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui déclenche le symptôme, qu'est-ce qui déclenche le problème. Et avec le temps, vous devenez, même de manière réflexe, quand vous avez un problème, vous savez, même quand vous mangez cette chose-là, vous prenez en même temps un comprimé pour éviter d'avoir le problème. C'est pareil spirituellement. Vous devez commencer à dire, quand je commence à avoir des palpitations, je suis troublé, je suis énervé, immédiatement, qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Qu'est-ce que je viens de découvrir? À quoi je viens de penser? Qu'est-ce que je viens de me rappeler? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ah, c'est ça qui vient de m'énerver. C'est ça qui vient de me faire perdre ma paix. Vous analysez la chose et vous la traitez d'un point de vue spirituel. Parce que tous les jours, y compris aujourd'hui pour moi et tous les jours, vous allez avoir des choses qui vont vous sortir de vos gants. Des choses qui vont vous énerver. Des choses dont la finalité naturelle est que vous soyez stressé. Mais vous devez avoir un contrat avec vous-même que vous êtes en guerre avec le stress. Donc, chaque fois que le stress démarre, vous arrêtez pour dire, je ne te ferai pas cette concession, Satan. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Même si quelqu'un vous humilie, vous vous dites, le Seigneur a dit que l'humilité précède la gloire. Seigneur, je te rends grâce. Je ne ferai pas, Satan, le plaisir de la rancœur. Je classe ce dossier-là. C'est difficile. Mais ça doit être un combat perpétuel contre vous-même tous les jours pour dire, je ne sortirai pas des rails de la paix. Tu me fais quelque chose, ça doit m'énerver. Le diable va vous dire, tu ne peux pas lui pardonner, il faut répliquer sinon il va recommencer. Le Seigneur a dit, tu pardonneras. Mais oui, mais il va continuer. À Dieu seul, la vengeance et la rétribution. Mais s'il ne fait rien, si vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas. Priez et faites des actions de grâce. C'est tout ce que vous avez à faire. Et il va faire ça, ça va faire comme ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu penses qu'un petit comme ça va te manquer de respect? Si Dieu n'avait pas permis, ça ne serait pas arrivé. Donc, dans votre cœur, à un moment, vous allez faire une discussion avec Satan. Il va vous donner des raisons de vous énerver. Vous devez trouver des raisons de lui répliquer ce qui est écrit. Vous faites ça deux ou trois fois, disparaît. Vous avez réglé ce problème. Et à force de faire ça, vous devenez un boxeur professionnel contre Satan. Il va toujours vous attaquer. Mais vous lui servez de temps en temps deux ou trois hypercutes, il disparaît, vous continuez votre journée. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez devenir fou. Fou au sens propre du terme. Qu'est-ce qui crée la folie? C'est l'explosion dans le cerveau du stress. Alors, celui qui avait demandé comment surmonter les difficultés liées au chômage, nous avons là un CD qui s'appelle « Comment sortir du chômage dès maintenant ». Vous pouvez le prendre et l'écouter. Il y en a un autre qui s'appelle « Les défis de la création d'entreprise ». Prenez-le aussi, écoutez-le. Vous avez quoi encore que vous pouvez écouter? Je vous conseille quand même comment devenir un géant de la foi. Avec ces trois CD, le problème devrait être réglé. On est au chômage parce qu'on ne veut pas travailler, rien d'autre.
C'est choquant, hein? Mais c'est la vérité.
On est au chômage parce qu'on ne veut pas travailler. On est au chômage parce qu'on veut que quelqu'un nous donne un emploi au lieu de travailler. Il y a toujours du travail et on n'a besoin de rien pour travailler. Mais les gens attendent qu'on leur donne un contrat de travail pour travailler. C'est tout le problème. Vous êtes au chômage, vous n'avez rien à manger. Mais faites un peu comme les mendiants. Prenez au moins l'initiative, c'est exagéré. Mais allez nettoyer la vie de quelqu'un. Il est bien obligé de vous donner quelque chose. Même si on vous chasse, de vous chasse, le troisième vous donnera. Je donne le cas extrême. Jésus a été charpentier. Le prince n'est pas agriculteur chez vous, mais c'est pour ça que chez vous, tout le monde est pauvre. Ou bien, chez vous, dont nous parlons, nous savons tous qu'ils sont des dards pauvres, non? Par excellence, à revue pauvre. C'est bien la preuve que leur père n'est pas le maître de leur de l'argent. Ça, c'est un choix. Moi, je m'occupe des gens qui veulent être riches, pas des gens qui veulent être pauvres. Chacun son choix. Un chef de terre, non, il ne fait rien. Des terres qui n'ont aucun papier, ils meurent sur leur terre, on les enterre dedans, et puis les problèmes sont toujours là. Bon, c'est pas là. Un chef de terre, il meurt parce que quelqu'un n'a pas plus d'un mille francs pour qu'on le soigne. Ça, c'est pas sérieux. Bon, ils n'ont qu'à s'occuper de leur terre là-bas. Moi, je m'occupe des gens qui veulent être heureux. Jésus a été charpentier. Paul a été faiseur de tentes, il les a vendus. Les Isaac, les Abraham étaient des agriculteurs, des bergers. David, le plus grand roi tout le temps, était un berger. Mais il n'y a pas de saut métier. Votre capacité à bien faire les choses, c'est pour ça qu'on dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de grandes. Personne ne peut prétendre qu'il est tellement grand qu'il ne peut faire que de grandes choses. C'est un menteur. Si tu es si grand que ça, on dit qui peut le plus, peut le moins. Si tu es capable d'être si brillant que ça, fais bien la petite chose qu'on voit. Ah, moi j'ai un diplôme en marketing, je peux gérer le marketing d'une grande boîte. Comment pas me vendre quelques biscuits, on saura de quoi tu es capable. Et ne viens pas me faire croire que si tu es incapable de vendre des biscuits, tu es incapable de gérer le marketing même tienne. Sauf aux imbéciles que tu vas dire ça. Je le vois dans les universités, dans les écoles, plein de doctorats, ils disent qu'ils sont enseignants de marketing. Ils ne sont pas capables de se fâcher et de se vendre eux-mêmes. Ce n'est pas parce que ça ne leur plaît pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Quand vous savez faire quelque chose, vous le faites. Et quand vous le faites, on vous paye. Si vous savez labourer un champ, n'attendez pas que quelqu'un vous recrute pour vous dire de venir être son ouvrier. C'est la saison où les gens sont dans les champs. Allez dans le champ de quelqu'un. Je ne te demande rien. Peut-être donne-moi juste de l'eau si j'ai soif. Je veux juste labourer avec toi. Je ne veux pas te payer, je ne veux pas d'ouvrir. Je ne te demande pas de me payer, je m'ennuie chez moi. Accepte-moi que je laboure, je te signe un papier que je ne te demande rien. Laisse-moi labourer pour ne pas m'ennuyer. Le gars a l'habitude peut-être de labourer un hectare par jour. Je donne un exemple. Vous arrivez à la fin de la journée, vous avez labouré 5 hectares. Vous croyez que quand vous avez dit OK à demain, ou bien vous avez dit Baba, il ne va pas vous demander, tu reviens demain. Et s'il vous demande si vous revenez demain, vous croyez que vous n'allez pas le demander, mais ça dépend. Hein. Je vais revenir comment? Il n'y a pas de problème, je paye ton transport. Mais si je viens, je vais manger quoi? Il n'y a pas de problème, je te nourris. À un moment, il vous demandera si vous venez pas, mais tu viens, combien tu veux pour venir? Parce que vous avez fait quelque chose, vous vous en foutez des contrats. On sème d'abord pour récolter. Les fainéants que nous formons dans nos écoles aujourd'hui sont programmés pour demander un contrat de récolte avant de prouver qu'ils sont capables de semer. Ce n'est pas leur faute. On leur apprend qu'il faut avoir le travail avant de prouver qu'on sait travailler. Vous avez des gens qui sont stagiaires. À la fin du stage, on ne le renouvelle pas. Deux fois, trois fois, si vous voyez dans le CV de quelqu'un, 5 stages, on ne l'a pas renouvelé. Moi, je ne sais pas l'expérience que c'est un fainéant. Quelqu'un de bon, quand il rentre en stage, on le garde. Si on ne le garde pas, il va rencontrer dans l'entreprise où il était quelqu'un qui est d'une autre société, qui doit être impressionné par lui, qui lui donne un contrat. Si vous êtes en situation de travail et que vous n'êtes pas indispensable et qu'on vous laisse partir, c'est que vous n'êtes pas bon. Quand vous arrivez en stage quelque part, si vous êtes si bon que vous le prétendez, vous devez vous rendre indispensable par vos résultats. Or, souvent, lors de leur stage, les jeunes n'ont même pas le souci du résultat. Ils font comme s'ils sont en stage pour se balader par formalité. Ils manquent des occasions de rencontrer des gens. Ils manquent des occasions de faire leurs preuves. Et à la fin, ils disent, bon, je veux un autre stage. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours plein de travail pour ceux qui veulent travailler. Et il y aura toujours du chômage pour ceux qui attendent qu'on leur signe un contrat de travail pour travailler. Le problème est simple. Et si vous avez des diplômes, un conseil, mettez-les à la poubelle. Si vous n'avez pas le courage de mettre à la poubelle, enfermez-les dans une cantine quelque part, confiez-les à votre maman ou à votre grand-papa. Eux, ils aiment bien se vanter des diplômes de leurs enfants. Mais ça ne changera rien à votre vie. Les gens les plus riches du monde n'ont pas de diplôme. Les gens qui ont marqué le monde, même les grands inventeurs, n'ont pas de grands diplômes. Ils ont le bon sens. Ils ont la sagesse. Ils ont l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec le papier qu'on donne à l'université. L'avoir n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est-à-dire entre ne pas l'avoir et être intelligent, ou l'avoir et être bête, il vaut mieux ne pas l'avoir et être intelligent. Mais si vous pouvez l'avoir et être intelligent, tant mieux. Mais s'il faut choisir entre le diplôme et l'intelligence, choisissez l'intelligence. Or, la plupart des gens choisissent d'avoir le diplôme et d'être bête, et ils se moquent des gens intelligents qui n'ont pas le diplôme. Or, tout nous prouve tous les jours que c'est les gens intelligents qui n'ont pas le diplôme qui mènent l'économie, qui mènent la politique, qui mènent l'armée. Qui mènent, ils contrôlent tout. Vous avez nos docteurs qu'on voit sur les affiches là. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont finir de faire le malin parmi eux, qui finissent par être pauvres à force de parler, à ne rien faire, ils finissent par voir dans la vie de tous les jours des gens qui, sans aucun diplôme, ont réussi brillamment. Quand ils ont besoin de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ce qui s'est passé. Même si tu n'es pas venu à l'université, nous on te donne un doctorat. On appelle ça doctorat honoris causa. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voulez un doctorat, oubliez l'université, soyez riche. Mais il y a des gens, il faut aller à l'école, il faut papier, il faut un diplôme, il faut le master, il faut le ci, il faut. Plus ils ont de diplômes, plus ils sont pauvres. Vous ne voyez pas que plus vous êtes diplômé, plus vous avez du mal à trouver du travail. Quand une entreprise recrute CAP, BAC, s'il va trop aujourd'hui, c'est BTS. Quand vous avez licence, c'est dans votre CV, les gens ne payent plus que ça. Parce que les gens ont prouvé que les gars qui ont le CAP sont aussi bons que les gars qui ont la maîtrise. Même plus bons que les gens qui ont la maîtrise. Pourquoi payer les scolarités chères que je vois dans les universités là? Perdre son temps à l'école pour avoir un papier qui ne sert à rien. Et on finit par être stressé. Ah, j'ai diplôme. Fiki, jamais. Et le diplôme caca, et moi, azo, hein. Qui avait dit que diplôme non azo? Oh, je ne comprends pas. Qui vous avait dit ça? Si c'est Dieu qui vous a promis, il suffit de lui demander. Tout le reste, ça ne vaut rien. L'autre chose que je peux peut-être vous dire à cet effet, c'est que moi, il y a des choses que je ne demande même pas. Pourquoi? Je me mets toujours à la place des gens en me posant une question. Si je me mets à sa place, aime ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que je gagnerais à me donner si j'étais lui, ce que je suis en train de lui demander? Si je ne vois pas qu'est-ce qu'il gagne à me le donner, je ne veux même pas aller lui demander parce que si j'étais à sa place, je dirais non. Moi, je ne fais rien pour personne sans savoir qu'est-ce que je gagne à le faire. Si je suis là à me fatiguer pour vous rendre heureux, ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, hein, mais je vous aime parce que Dieu vous aime. Si demain Dieu dit qu'il ne vous aime pas, je suis désolé, je vais faire autre chose de mes soirées, je ne serai pas ici. Il faut qu'on se dise la vérité. Je fais tout ça parce que j'ai envie de faire plaisir à Dieu et que je vois que Dieu est heureux quand on s'occupe des gens et je suis heureux de voir des gens heureux parce que je m'en suis occupé. Mais à part ça, je n'ai aucune raison d'être ici. Et c'est ça qui fera que, par exemple, le jour où ces conditions ne seront pas réunies, je ne vais pas faire autre chose. Et souvent, dans notre pays, les gens s'imaginent toujours qu'il y a des agendas cachés derrière. Ils gagnent quelque chose, ils font ça certainement, il a un intérêt. Et j'arrive à certains endroits où les gens veulent me faire comme il faut aux hommes politiques là. Le chantage avec les intérêts. Je les casse rapidement. Moi, je n'ai pas d'intérêt. Quand on est parti, par exemple, samedi dernier, Martin était là à une conférence dans une localité de notre pays au Mono. On nous invite gratuitement. On prend mon temps de sommeil samedi matin après danser pour Dieu, on m'invite. On met la conférence à 8h. Je dis, moi, c'est pas sûr que j'arrive si tôt que ça. Moi, je me suis réveillé tranquillement, en plus je vais y aller avec mon épouse. On a pris la route avec tous les embouteillages, tout ça. On est finalement arrivé là-bas à 11h. Ils avaient fait leur cérémonie d'inauguration, tout ce qu'ils font là. Et nous rentrons dans la salle. Et nous voyons deux ou trois bonnes femmes là qui commencent à bouder. Ah, pourquoi c'est maintenant qu'ils arrivent? Puis une fois, un peu comme ils font souvent aux hommes politiques dans les meetings là. D'accord, les hommes politiques, c'est eux qui sont demandés, c'est demandé d'électorat. Donc les gens commencent à se moquer d'eux, à lever la voix, un peu comme pour les intimider. Peut-être si c'est un homme politique, c'est vrai, il va leur donner l'argent, il va les supplier. Et ils pensaient qu'ils étaient en position de force. Moi, quand j'ai pris le micro la première fois, je viens de très loin. Je me suis réveillé tôt ce matin de manière anormale pour être ici. Je ne sais pas si les organisateurs vous ont dit qu'ils m'ont donné un franc. Je n'ai pas pris un copeck. Ils n'ont même pas payé mon carburant. Et quand je quitte ici, je vais me reposer à grand propos. Je suis là pour vous donner quelque chose qui vaut des millions. Et ailleurs, on me paye 1 million, 2 millions, 3 millions la journée pour le dire. Si quelqu'un n'est pas content que je sois là, il peut encore se lever et sortir, bien que vous soyez dans votre salle. Si vous voulez tout sortir, vous sortez. Et moi, je continue mon séjour pour aller me reposer où je vais. Si quelqu'un veut rester, il se tait, il se concentre. Je continue, je m'en arrête là. Parce que dans tous les cas, je ne suis candidat à rien. C'est pas si on vous a dit que je cherche quelque chose, je ne suis candidat à rien. Je suis là pour donner. Et quand je donne, la main qui donne est au-dessus. Si quelqu'un estime que d'apprendre à être heureux, d'apprendre à sortir du chômage ne vaut pas l'attente, il peut se lever et bouger. Vous me dites, moi je continue mon chemin. Si je m'en demandais un matin, c'était le calme plat. Après j'ai eu la paix, j'ai fait mon séminaire. Sinon, tout le temps, ils sont là en train de s'agiter. Mais je suis demandeur de quoi? Quand vous allez voir un banquier, vous voulez avoir un prêt, il peut vous faire attendre de 8h à minuit, vous attendez, c'est vous qui avez besoin. Ça veut dire quoi? On se déplace gratuitement. On fait des centaines de kilomètres pour aider les gens et ils veulent bouder. Parce qu'ils m'ont donné quoi ou que je leur dois quoi? Il faut un moment rétablir les choses dans la vérité. Je ne suis candidat à rien. Si tu veux quoi, je suis candidat à quelque chose, personne ne se perd. Hein? Je ne suis candidat à rien. Et si un jour je gagne quelque chose, je ne le devrai à aucun homme. Écrivez bien ça. Si un jour j'ai quelque chose, ce sera parce que Dieu l'aura voulu, que ça plaise ou non aux hommes. À part ça, je n'attends rien de personne. Il faut dans la vie savoir où on va, avoir des objectifs et ne pas se laisser manipuler. Et ce courage-là, de dire la vérité crûment, vous devez l'avoir. Vous ne pouvez pas savoir comment on est fort quand on dit la vérité. Moi, je me rappelle bien avec mon divorcé consort. Je me suis offert les meilleurs moments de plaisir au Bénin. Une situation où les gens te croisent et ils pensent que c'est toi qui vas être gêné. J'aime bien les gêner, eux. Et les gens disent, ça va? Et la famille dit, mais pourquoi tu me demandes ma famille au lieu de me demander clairement qu'est-ce qu'il en est de mon divorce? Il dit, ah, c'est ça que tu veux, non? Il dit, oui. Je dis, alors demande-le clairement. C'est pas la peine d'être hypocrite. Demande-moi qu'est-ce qu'il en est de mon divorce. Qui est gêné finalement? Les Bénois aiment trop manipuler les gens. Et la réplique à ça, c'est la vérité. quand vous avez le courage de la vérité, personne ne peut rien vous faire. Dites toujours la vérité, où que ce soit. Sinon, ils vont jouer avec vous. Si vous n'avez pas le courage de la vérité, les gens vous manipuleront toujours. Mais dès que vous sortez la vérité, ceux qui veulent vous manipuler sont les premiers qui fuient. Des questions?
Alors, je disais que vous avez dit que la paix du cœur est l'aval de Dieu sur les initiatives. C'est-à-dire, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez la paix du cœur, ça veut dire certainement que Dieu est avec vous. Parfois, entre une chose urgente et une chose importante, vous avez tendance, bien que vous savez que c'est la chose importante qu'il faut prioriser, dès que vous l'initiez, l'urgence de l'autre chose vous fait perdre la paix au point où vous ne vous concentrez pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort pour pouvoir avancer dans la chose importante?
L'urgence ne vous fait pas perdre la paix. L'urgence vous met la pression. Ce qui vous fait perdre la paix, c'est votre réaction à la pression que vous met l'autre chose. Et cette réaction est fonction de ce que vous savez, de ce que vous croyez. Si vous êtes en train de vous occuper de votre travail, qui est par exemple le plus important, on vous appelle pour vous dire qu'il n'y a rien à manger à la maison. C'est une urgence sérieuse qui aura tendance à vous déstabiliser de toute évidence, alors qu'elle n'est pas importante. Ce n'est pas qu'elle n'est pas importante parce qu'il n'est pas important que vos enfants mangent. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas important de se soucier de ce qu'on mangera. Ça, là, c'est le boulot de Dieu. Si vous connaissez vraiment Dieu, vous savez ce que chaque chose vaut, vous dites un instant. Seigneur, il vient de dire tel. Il me semble que tu as dit que je n'ai pas à m'inquiéter pour ce que je mangerai. Cela étant là, ça, au nom de Jésus, c'est ton problème. Je te remercie parce que tu ne peux que t'en occuper. Merci, Seigneur, parce qu'avec ton aval, je continue ce qui est plus important. Parce que tu as dit que ça, là, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Et si par la foi, vous croyez vraiment ça, vous l'oubliez, quand vous rentrez à la maison ce soir, le problème aura été réglé. Soit parce que vous allez gagner de l'argent dans la journée pour le faire, soit parce que Dieu organisera dans tous les cas, les temps et les circonstances, vous l'avez défié pour le faire. Et c'est là où la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, c'est la ferme assurance de ce qu'on entend de Dieu, de ce qu'on espère parce qu'on l'a entendu de Dieu. On dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on attend, et des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on attend. Et ailleurs nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous avez une ferme espérance en une promesse d'un homme, ça c'est votre problème, ça ne concerne pas Dieu. Mais si vous avez une ferme espérance dans la promesse qui vient de la parole de Dieu, là vous défiez Dieu. Et je ne connais pas quelqu'un qui m'ait jamais prouvé que Dieu n'ait pas relevé un défi. Et la démonstration de ce qu'on espère, de ce qu'on attend, quelle est la démonstration que je ne doute pas que Dieu s'en occupera? C'est que je ne m'en fais pas des soucis. Je ne peux pas dire que je suis convaincu que Dieu va régler mon problème et être inquiet toute la journée du problème. Mon inquiétude est la démonstration que je ne fais pas confiance à Dieu. Mais la démonstration de ce que j'attends, c'est-à-dire le miracle de Dieu, c'est que quand j'ai fini de lui dire ça, moi j'oublie le problème, je vais à d'autres occupations. Et quand je me rappelle, c'est pour me dire, mon épouse va dire, ah, mais tu sais, tel problème que j'avais posé là, tu sais ce qui s'est passé, c'est incroyable, je venais t'appeler quand t'étais tel. Je dis ça, je savais que ça serait clair. En tous les cas, ce n'est pas mon problème, ça c'est le problème de Dieu. Vous pouvez me dire, bon, la prochaine fois qu'il y a un problème de ce genre, c'est pas la peine de me perdre du temps. Celui qui s'occupe de la nourriture dans cette maison, ce n'est pas moi. Bon, trouver de l'argent, acheter des voitures, faire des choses comme ça, c'est mon problème. Parce que ça, c'est la prospérité. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Il faut que je travaille pour avoir ce genre de bénédiction. Mais il a dit que côté nourriture, là, côté toi, côté habit, je n'ai pas à m'en soucier. Donc, la prochaine fois que tu as un problème par rapport à ça, contacte directement celui qui s'en soucie. Tu peux m'informer après que dans la journée, tu as tel problème, tu l'as informé. Généralement, tu me diras aussi ce qu'il a fait, parce qu'il aura toujours fait quelque chose. Ce que je dis là, elle est très simple, mais c'est ça la foi. Et le défi du chrétien, c'est comme Abraham et consorts, c'est de croire tellement que c'est vrai, qu'on demande que c'est vrai. Comment on demande que c'est vrai? En ne s'en faisant pas des soucis. C'est ça le plus dur, mais c'est ça la foi.
La seconde question, c'est, dans Matthieu, je crois, 5 ou 6, Jésus dit, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, si ton pied gauche entraîne ta chute, ainsi de suite, arrache-le, jette-le loin de toi. Est-ce que vous pensez que si vraiment l'environnement ou des parents augmentent à ce genre de difficultés à gérer ou bien à grandir, à avancer dans la foi, ce message de Jésus voudrait dire qu'il faut s'en débarrasser aussi?
S'il est établi, qui t'empêche vraiment d'accéder au paradis? Parce qu'il faut faire attention. Jésus n'a jamais dit que toute personne qui te pose un problème, il faut le couper, le jeter loin de toi. Il dit, si un membre, ou il avait même dit ailleurs, si un père, une mère, un mari, n'importe quoi, veut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, sépare-toi de lui. Il faut donc établir, c'est comme dans un tribunal, tu veux accuser quelqu'un. Le juge te demandera de prouver qu'effectivement, la loi dit que si il veut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, de t'en séparer. Tu demandes à t'en séparer, la loi te demandera, ou le tribunal te demandera de prouver qu'il a vraiment essayé, ou que si tu ne le coupes pas, il va vraiment t'empêcher d'entrer au royaume des cieux. Tout le débat est là. Quand un père, quand une mère, quand un conjoint ne sont pas d'accord avec, par exemple, ta foi, t'insultent, te moquent tout le temps de toi, peut-on en conclure qu'ils veulent t'empêcher de rentrer au royaume des cieux? Ils veulent peut-être, mais est-ce qu'ils t'empêchent? Ce qui t'empêche, c'est ta réaction. Il y a plein de gens qui ont essayé de détourner Jésus, de dire qu'il rêvait, qu'il était Belzéboul. Il ne les a pas coupés parce qu'ils n'ont aucune capacité à l'empêcher. C'est s'ils leur cèdent, c'est s'ils se laissent intimider par eux, c'est s'ils se laissent manipuler par eux, ou si c'est si par des moyens qui ne dépendent plus de lui, on veut le tuer, on veut le bloquer, on veut l'emprisonner, même là encore, pour l'empêcher de faire son ministère, qu'il peut établir qu'on a essayé de l'empêcher. Mais quand les gens te critiquent, les gens ne t'aiment pas, les gens t'insultent, tout au plus ils te persécutent. Mais Jésus a dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. Ils ne vous aimeront pas parce qu'ils ne m'ont pas aimé. Donc, il faut arriver à établir que ce que ces gens-là vous font est vraiment classé dans la catégorie de ce qui t'empêche d'aller au royaume des cieux. Et je crois personnellement qu'aucun homme ne peut empêcher un autre de faire la volonté de Dieu. Les Pierre, les Paul, les Étienne ont prouvé qu'au mieux, ils avaient le pouvoir de choisir de donner leur vie pour aller chez Dieu plutôt que de se compromettre. Et on a toujours ce choix-là. Personne ne peut jamais vous contraindre à vous détourner de Dieu. Par définition, un martyr, c'est quelqu'un qui a refusé de se détourner de Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'on lui prenne la dernière chose qu'un homme peut lui prendre, la vie sur terre. Partant de là, quand on dit qu'un membre, comme le dit Jésus, rien de mauvais ne vient de l'extérieur, la plupart des impuretés viennent de notre cœur. C'est généralement nous-mêmes qu'à cause de la pesanteur de la chair, des tentations, de nos négligences, de nos habitudes, nous sommes en réalité les vrais obstacles de notre vie de foi. Les vrais ennemis de notre foi ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Notre paresse, le sommeil, trop manger, trop boire, être trop colérique, être impatient, ne pas pouvoir s'obliger à prier. C'est ces choses-là qui sont en réalité capables de nous empêcher d'accéder à Dieu. Mais quand quelqu'un a ça là, personne ne peut de l'extérieur l'empêcher d'accéder à Dieu. Donc je ne pense pas que des gens qui nous persécutent puissent être rangés dans la catégorie de ceux qui nous éloignent de Dieu. Toutefois, ce qui rentrerait plutôt dans cette catégorie, c'est le cas de Lot avec Abraham. Ou le cas, par exemple, de Abraham même, qui a dû quitter chez ses parents. Il y a des moments où Dieu va vous dire, comme Abraham, quitte la maison de ton père et va à. Ou comme avec Abraham, toujours, il va dire à un moment, sépare-toi de Lot. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez avoir ce qu'on appelle dans tout processus de croissance spirituelle, il y a ce qu'on appelle la rupture des relations compromettantes. Toute personne qui était dans le monde et qui décide de marcher avec Dieu, va arriver à un carrefour où Dieu va lui demander de se séparer de certaines choses. Des amis, des parents, des conjoints, des habitudes. Vous devrez lâcher du lest. Il n'y a rien à faire. C'est tout ça qu'on appelle naître de nouveau. Et oui, vous vous retrouvez à des moments où vous devrez pas forcément tuer, pas forcément bannir, mais prendre au moins de sérieuses distances. Abraham s'est séparé de Lot. Ça n'a pas empêché qu'il continue d'intercéder pour Lot, de parler à Dieu pour Lot, d'éviter que Lot soit tué, qu'il aille même défendre Lot qui avait été fait prisonnier, je ne sais pas trop par qui. Vous voyez, il a chassé Lot. Mais ça n'a pas empêché quand Lot a été fait prisonnier par une armée de s'impliquer encore, d'aller défendre Lot, de le racheter, en risquant quasiment sa vie. Donc, vous devez vous éloigner des gens dont la compagnie dit, la Bible dit, ne te tiens pas à côté des méchants. Ne t'assieds pas avec eux. Donc, vous devez fuir la discussion, comment je vais dire. C'est pas qu'on ne doit pas parler avec eux, parce qu'il faut parler avec eux pour toucher leur cœur. Vous devez vivre avec eux pour les impacter. Mais vous devez éviter de vous laisser corrompre par eux, de vous laisser influencer par eux, de vous laisser dominer par eux, de laisser leur attitude, leur comportement vous dénaturer et vous éloigner du chemin que Dieu vous a tracé. Si vous sentez qu'en fréquentant des gens, ils ont tendance à vous faire faire des choses que Dieu n'aime pas, fuyez-les. Ne les détestez pas, ne les combattez pas, mais fuyez-les tout en les aimant, tout en priant pour eux de loin. Quand vous les voyez, essayez de les impacter. Essayez de les éclairer. Essayez de les assaisonner. Ne les laissez pas. C'est pour ça que je lui dis, mais le sel doit assaisonner. Si lui-même perd sa valeur ou sa saveur, avec quoi le rachètera-t-on? Vous êtes dans le monde pour impacter le monde. Mais si c'est le monde qui vous impacte, qu'est-ce qui va vous sauver? Puisque vous aurez déjà été du sel qui aurait été se griller en étant impacté par les païens. Donc, le défi du chrétien, ce n'est pas de fuir les païens. C'est de vivre parmi les païens sans se confondre aux païens. Sans se laisser métamorphoser aux païens, sans se laisser dénaturer par les païens, mais au contraire d'impacter les païens. Vous devez aller vers les païens, mais comme eux sont obscurité, vous êtes lumière, c'est vous qui devez les éclairer. Ce n'est pas eux qui doivent vous éteindre. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont des lumières qui sont éteintes par le monde, au lieu d'être des lumières qui viennent éclairer le monde. Donc vous allez par exemple voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui en politique, ils sont des lumières à peine naissantes encore du charbon qui n'avait pas bien commencé à brûler. on les a mis dans l'obscurité, l'obscurité les a éteints. Alors que le monde politique aurait plutôt besoin de lumière incandescente qui arrive et qui embrase tout. Le chrétien a vocation à être la lumière qui éclaire, pas un petit charbon qui est éteint par l'obscurité. Des questions?
Oui.
Moi, je vais peut-être vous taquiner un peu.
Vous avez besoin de?
Je vais peut-être vous taquiner un peu.
Je suis habitué, allez-y.
Alors, vous avez parlé de la vérité tout à l'heure.
De la?
Vérité. Il faut dire la vérité, que c'est une force. Mm-hmm. Et c'est vrai, c'est une force. Malgré cela, il arrive des moments où nous mentons. Est-ce qu'il vous arrive de mentir aussi et dans quel cas?
Comme tout le monde, oui, j'ai beaucoup menti par le passé. Aujourd'hui, je mens peut-être dans 1% des cas. Et je n'ai pas fini de mentir que je le regrette. Et je suis sûr qu'un jour, je ne dirai plus un seul mensonge. C'est-à-dire que le naturel, c'est de mentir parce qu'on trouve même que c'est brillant que de mentir. Et c'est faire preuve d'intelligence pour mentir. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens auraient été plus forts que moi. Mais depuis à peu près 3 ans, j'ai banni le mensonge parce que j'ai compris que ce n'est pas rentable. Évidemment, le diable étant fort, on se surprend encore une fois en passant à faire un mensonge. Par exemple, quelqu'un me demande quelque chose. Je ne veux pas le lui donner. Je dis, bon, ok, dites-lui non. Soit mon épouse, soit un collaborateur, dit, mais qu'est-ce que je lui dis? Le premier frère dit, dites que ce n'est pas disponible. Je dis, non, ce n'est pas à faire, disons, dites que je ne veux pas. Un point, c'est tout. Pourquoi je ne peux pas? Et à cet effet, je vais vous dire quelque chose. Le secret, parce qu'il faut aussi avoir des techniques pour dire la vérité, sans pour autant devoir tout dire, parce qu'il y a quelque chose, hein. Je continuerai toujours de dire que mon mot préféré dans la Bible, c'est le discernement. Dieu dit de ne pas mentir, mais il ne dit pas de tout dire. Quand on pose beaucoup de questions à Jésus, il ne répond pas. L'heure n'est pas venue. Si je vous le dis maintenant, vous ne pouvez pas le supporter. Le moment viendra, on vous le dira. Le moment venu, le Saint-Esprit vous le dira. La Bible dit même, à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, que nous devons régner et avoir de l'autorité, si Dieu garde des choses cachées, c'est parce qu'une partie de votre autorité tient à ce que vous ne révélez pas. Dieu ne mentira jamais. Mais il peut vous dire, comme je l'ai souvent dit, ça là, je ne te dis pas maintenant. Je ne sais pas si vous me suivez. Cela veut dire qu'il ne faut ni tomber dans l'excès de dire, on peut mentir, tout est permis. Non, on ne ment pas, tout n'est pas permis. Mais on ne peut pas tomber non plus dans l'excès de dire, il faut tout dire comme si on était transparent. Dieu n'est pas bête. S'il voulait que tout ce qui se passe dans votre tête soit transparent, il aurait fait votre tête transparente. Ça, c'est clair. Il n'est pas idiot. Quand on demande à Jésus, êtes-vous le fils de Dieu? Il n'a jamais dit oui, il n'a jamais dit non. C'est vous qui le dites. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui, si je suis avec vous, vous ne m'avez pas reconnu. Vous n'avez jamais vu Jésus dire oui à cette question-là. Non, il n'a jamais menti. Mais il n'a jamais balancé la vérité de manière frontale. Et il y a des moments où il a même feinté la question. C'est vous qui le dites. Donc, il faut apprendre aussi à répondre la vérité sans pour autant livrer des informations que vous ne voulez pas livrer. Et ça, ce n'est pas un péché. C'est une règle de sagesse. Je ne sais pas s'il est suicidaire, mais tout détail n'est pas pertinent. Et la sagesse, la parole dit dans la Bible, celui qui parle trop est un insensé. La sagesse recommande de contrôler ce qu'on dit. Mais entre contrôler ce qu'on dit et mentir, il y a un pas à ne pas franchir. Il est mince, mais il existe bien. Quand on me demande si un avocat peut ne pas mentir, je dis oui. Mais il n'est pas obligé de dire toute la vérité. Parce qu'il a le droit de garder des choses. Donnez un exemple. Quelqu'un vous demande par exemple de lui, par exemple de venir à un enterrement. Ça m'arrive très souvent. En réalité, vous ne voulez pas. D'accord? La tentation, souvent, c'est de mentir pour dire non, je suis occupé. Ça, c'est un mensonge. Ça dépend. Si vous êtes vraiment occupé, vous avez du travail, là, c'est pas un mensonge. Vous êtes occupé, c'est vrai. Mais si j'ai prévu de dormir, c'est pas que je suis occupé, c'est que j'ai envie de dormir. Donc, si vous dites je suis occupé alors que vous avez prévu de dormir, vous mentez. Si vous dites que je ne veux pas venir, vous frustrez, vous choquez, vous blessez. Ce n'est pas le but non plus de la vérité. La Bible dit quelque part d'ailleurs, toute vérité est faite pour édifier, encourager, fortifier, enseigner. La vérité ne blesse jamais. Elle est faite pour édifier. La vérité n'a pas pour vocation de blesser. Ça blesse celui qui... C'est comme si tu allumes la torche sur quelqu'un. Si c'est neuf, c'est qu'il faisait quelque chose de louche. Mais la torche n'a pas vocation à blesser quelqu'un. On est d'accord? Si tu allumes la torche et toi, tu commences à crier. Je vais te demander, pourquoi tu cries? Pourquoi tu as fait la vérité? C'est pareil pour la vérité. Mais il ne faut pas utiliser la vérité pour blesser. Donc si quelqu'un dit, viens à l'enterrement de ma grand-maman, tu dis, je ne veux pas, tu es en train de manquer de sagesse sociale. Si tu dis, je suis occupé, alors que tu vas dormir, tu mens. Mais si tu dis, je ne peux pas, la personne ne sait pas si tu ne peux pas parce que tu ne veux pas ou parce que tu es occupé. Mais ce fait que tu ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis en train de dormir. Je n'ai pas besoin de t'expliquer le détail. Mais le je ne peux pas veut dire la vérité sans dire tout ce pourquoi je ne peux pas. Non, quand le bon Benoît demande pourquoi, qu'est-ce qui vous oblige à lui répondre? Ce n'est pas parce qu'on a posé des questions à Jésus qu'il a répondu. Pourquoi tu ne peux pas? Laisse tomber mon frère, je ne peux pas. On en parlera après. C'est fini. Et en général même, on dit enfant, comment je dis? C'est la manière dont tu dis je ne peux pas. Les gens n'ont même pas droit à moi. Ils ne peuvent pas me regarder en face pour dire pourquoi je ne peux pas. Il y a une manière de ne pas permettre des questions. Je peux dire je ne peux pas, il va poser une question. Je peux dire je ne peux pas, il n'osera même pas poser une question. Ça dépend de la nature du je ne peux pas. À la communication, il y a des détails. Il y a le ton, il y a une série de choses. Quand je dis je ne peux pas, si la personne est intelligente, il n'insiste pas. S'il insiste, je dis je ne peux pas, c'est tout, laisse tomber. On en parlera après, je ne peux pas. Fais un effort, je préfère ne pas te mentir. Tu veux que je dise que je vais venir, que je sais que je ne vais pas venir. Non, c'est pas ça, donc je ne peux pas, laisse tomber. Je ne peux pas, veut tout dire, je n'ai pas menti. Mais je n'ai pas dit que j'allais dormir. Pourquoi il a dit, ah, mets-toi. Moi, j'ai demandé à qui il vivait la terre, ma grand-mère m'a dit qu'il allait dormir. On m'a dit que tu voulais te moquer de lui. Mais si il a dit que je ne peux pas, oui, je ne peux pas, mais qu'il fasse quoi? C'est tellement qu'il devait avoir une occupation. Ça, c'est plus le problème. Mais j'ai dit, je ne peux pas. Donc, vous devez apprendre à trouver une manière d'exprimer la vérité qui n'est pas un mensonge, tout en étant la vérité. Supposons que vous êtes là. Quelqu'un vient voir la maison. Vous ne voulez pas recevoir la personne. N'apprenez pas à vos enfants à mentir en leur disant, dis-lui que je ne suis pas là. Vous mentez et vous poussez vos enfants à mentir. Il n'y a rien de plus dangereux. Papa n'est pas là alors qu'il est là. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas donner des consignes de mensonge à vos enfants. Demain, quand ils vont mentir, vous allez leur dire quoi? Que le mensonge n'est pas bon? Et quand ils vont dire, mais papa, toi, si la dernière fois tu as dit ça, vous allez les gifler. Alors qu'ils ont raison. Vous n'êtes pas censé mentir. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Il est là, il ne veut pas me recevoir, ou bien il n'est pas là. Papa n'est pas disponible. Vous avez un message pour lui? Il revient quand? Quand il sera disponible, je vais lui demander. Il n'est pas disponible, il ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il ne veut pas dire qu'il est là, qu'il ne veut pas te recevoir. Il peut être là, être disponible. Il peut être là, être indisponible. Il peut ne pas être là, être indisponible. Donc, vous devez apprendre, surtout dans les cas les plus courants, à avoir des mots qui rendent la vérité, qui ne sont pas des mensonges, mais qui ne donnent pas un détail que vous ne souhaitez pas donner.
Monsieur.
Oui.
Il y a des cas un peu difficiles.
Allons-y.
Peut-être si, par exemple, votre beau-père vous a fait quelque chose qui vous fait mal.
Oui.
Il a peut-être dit des choses qui vous font mal.
Oui.
Et nous sommes à l'orée, par exemple, du Nouvel An. Et vous devez normalement l'appeler pour lui souhaiter bonne année. Et puisque vous aviez mal, vous ne l'avez pas appelé. Et il s'en plaint. Il vous appelle et vous dit, mais comment c'est fait que tu ne m'as pas appelé à la veille de la fête pour me souhaiter au moins une bonne année? Donc, dans ce cas, par exemple, maintenant, vous ne pouvez pas dire, c'est parce que vous avez dit telle chose qui me fait mal, c'est pourquoi je ne vais pas vous appeler. Et si vous ne voulez pas mentir, vous ne pouvez pas non plus dire que vous étiez indisposé ou bien qu'il n'y avait pas de crédit. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce...
Alors, première chose, il faut apprendre dans la vie à faire des choses que vous êtes prêt à assumer. Il peut y avoir quelques rares cas où vous n'avez pas le choix. Et encore, quand je dis on n'a pas le choix, c'est que vous n'avez pas encore atteint le niveau de sagesse pour avoir le choix. Mais en règle générale, ça doit être un objectif personnel que vous fixez, d'arriver à un moment où vous pouvez assumer tout ce que vous faites. D'ailleurs, la Bible nous dit, ne faites rien que vous ne voulez pas qu'on sache, parce que tout se saura tôt ou tard. Et Dieu voit tout. Donc, vous devez à un moment vous donner comme ligne de conduite, quand je fais quelque chose, c'est parce que je suis capable de le refaire en public. Faites comme s'il y a tout le temps un projecteur braqué sur vous. Quand vous vivez comme ça là, on aura du mal à vous compromettre. Et vous n'aurez pas beaucoup de situations où vous vous sentirez mal. Dans votre cas, ça veut dire quoi? Si vous estimez que vous ne pouvez pas assumer le fait que vous ne lui avez pas présenté les vœux parce que vous étiez fâché, présentez-lui les vœux. Si vous estimez plutôt que vous êtes fâché, vous ne voulez pas lui présenter les vœux pour le signifier, et que quand on le demandera, quitte à être diplomatique, vous direz, Pépé, je ne veux pas être hypocrite, j'étais vraiment fâché contre toi et j'ai préféré ne pas faire semblant de te présenter mes vœux. Si vous êtes capable d'assumer la vérité, quelle que soit la forme que vous donnez pour assumer, et que donc vous avez cherché à passer un message, passez-le. Mais vous ne voulez pas, parce que ne pas y aller, c'est vouloir créer un incident. On ne peut pas créer un incident en se plaignant d'avoir géré l'incident, alors que c'est vous qui avez pris l'initiative. C'est vous qui avez tiré la première balle dans la guerre. Et vous vous plaignez du fait qu'il y ait une guerre. On ne tire pas une balle dans une guerre quand on ne veut pas qu'il y ait des échanges de coups de feu. Donc la sagesse aurait voulu que, avant de décider, il ne faut pas agir sur les émotions. Bon, moi, je ne lui présenterai pas mes vœux. Mais vous devez savoir, si vous ne présentez pas les vœux, ça va poser un problème. Donc, si vous décidez de ne pas présenter les vœux, c'est qu'après avoir su que ça allait poser un problème, vous avez déjà décidé comment vous réagirez. Et vous êtes sûr que vous êtes capable de l'assumer. Là, vous créez un incident. Mais on ne peut pas créer un incident et être surpris de devoir gérer un incident. Mais ça devrait être comme ça. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, je vois des gens qui disent, mais toi, tu as réponse à tout. Je dis, je n'ai pas réponse à tout. Mais je ne fais rien sans y avoir trouvé une réponse. C'est l'action qui doit succéder à la réponse. La réponse ne vient pas quand on a agi. Si vous me voyez faire quelque chose, c'est parce que je me suis déjà mis à la place de tous ceux qui peuvent me regarder et je sais qu'est-ce que je leur répliquerai. Si, en regardant d'avance, qu'est-ce qu'on va penser de ce que je fais, je ne trouve pas moi-même de réponse convaincante et imbattable, je ne le fais pas. Mais si vous me voyez faire quelque chose, c'est que je me suis préparé à en répondre. Ou alors, j'ai peut-être fait une erreur. Et là, j'assumerai que j'ai fait une erreur. Mais dans la plupart des cas, si je prends une option, c'est que toute chose considérée, je suis prêt à l'assumer. Sinon, je ne la prends pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas toujours régler les problèmes a posteriori. Beaucoup de problèmes de stress se règlent a priori, en se fixant des règles. Si je dis quelque chose de quelqu'un, ça doit être en règle générale parce que je suis capable de le redire devant lui, parce que la probabilité est forte qu'on le lui dise. Donc, vous ne pouvez pas dire quelque chose de quelqu'un et il vous dit, j'ai entendu dire que tel, il va commencer à bégayer. La probabilité est tellement forte que vous ne devez dire quelque chose de quelqu'un quand vous êtes prêt à l'assumer. Et parfois, que vous l'avez déjà dit. Sinon, vous devez vous imposer des règles. Je ne dis jamais ce que je ne suis pas prêt à assumer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est difficile. C'est une sagesse que chacun de nous doit développer petit à petit. Mais on doit finir par se donner cette ligne de conduite. Mon oui doit être oui. Mon non doit être non. Quand quelque chose ne me plaît pas, je m'entraîne à dire non. Quand moi, ça m'est arrivé, hein, quand à un moment, je n'ai pas le courage de dire non, par exemple, parce que la pression sociale est trop forte, par exemple, il y a beaucoup de parents, donc de tantes, je dis, laissez-moi réfléchir. Sachant que ce n'est pas que je vais réfléchir, je sais que je ne vais pas réfléchir, mais je prends du recul pour trouver le meilleur timing pour servir que je ne veux pas. Mais dans tous les cas, dans ma tête, il n'y a pas de doute, c'est que je ne le ferai pas. Donc, si la pression est tellement forte qu'on veut que je dise oui, alors que moi, je sais que c'est non, à défaut de dire non, je dirais, laissez-moi réfléchir. En me disant, bon, peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas considérer, on verra, laissez-moi réfléchir. Mais vous n'obtiendrez pas que je dise oui à ceux pour lesquels je sais que mon avis, c'est non. C'est-à-dire, au minimum, je me garderai une porte de sortie. Demandez à mon épouse, quand par exemple, elle dit quelque chose, je ne réponds pas, elle insiste, je dis, on verra bien. Elle sait ce que ça veut dire. Ça veut dire 80% de chance de non, peut-être, et ça arrive, 20% de chance de oui, peut-être parce que je peux réfléchir ou des événements peuvent arriver. Mais quand je dis, on verra bien, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire que la question reste ouverte. Mais on ne peut pas vous dire, quand vous avez dit, on verra bien, que vous avez dit oui. Mais des fois, elle dit, oui, tu as promis. Je dis, non, je n'ai pas promis. J'ai dit, on verra bien. On verra bien, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire qu'on verra bien. J'ai vu maintenant, c'est non. Donc, en cas de polémique, gardez-vous au moins la marge de manœuvre d'une réponse qui n'est pas bloquée. Je vais réfléchir, on va voir, laissez-moi étudier, laissez-moi prier, que la volonté de Dieu soit faite. Mais ne dites pas ce que vous savez clairement faux. Et ne lancez pas un combat quand vous ne savez pas comment vous allez le gagner. Quand celui qui déclare le combat peut perdre, mais au moins il doit compter sur quelque chose pour gagner, sinon pourquoi il déclare le combat? Il n'y a pas d'excuse à ouvrir soi-même un combat qu'on perd. Moi, il y a des fois, j'analyse une situation, je ne vois pas comment je peux gagner. Je préfère négocier la paix. Et il n'y a pas de honte à avoir l'intelligence d'éviter des combats. La Bible nous le dit quelque part. Il dit, par exemple, si ton frère, par exemple, tu dois de l'argent à ton frère, il veut t'amener à la justice. Entends-toi en chemin avec lui pour qu'il ne t'enferme pas. Sinon, il risque de t'enfermer et tant que tu n'as pas payé, tu ne sortiras pas. La Bible nous le dit clairement. Donc, dans certaines situations, tu es en position de faiblesse, tu n'as rien d'autre à faire que d'avoir l'humilité de négocier. Ce n'est pas une affaire d'héroïsme que de toujours déclarer la guerre. La sagesse vous indique des situations dans lesquelles on ne fait pas la guerre. Et il faut être sage. Oui.
Par rapport au cas qu'il a posé, oui. Est-ce que le fait de présenter les vœux tout en étant conscient intérieurement qu'il n'a pas envie de le faire, ce n'est pas de l'hypocrisie?
Ça, c'est une question qu'il doit trancher. C'est de l'hypocrisie. Oui, mais s'il ne le fait pas, il doit être prêt à assumer le fait qu'il n'a pas voulu être hypocrite en le disant. Ou alors, il présente les vœux. Qu'est-ce qui est la norme, c'est quoi? Revenons toujours à la Bible. Elle nous dit tout. On n'a pas besoin de faire débat philosophique sur la question. Si tu reproches quelque chose à un de tes frères, va le voir. Dis-le lui. S'il ne t'écoute pas, va voir une autre personne, plains-toi à lui. Et la Bible dit, si tu fais tout ça et que malgré tout, il reste peu sage, tu peux l'oublier, ça ne sera pas retenu contre toi. La Bible nous dit clairement quoi faire. Donc, le bon sens voudrait par exemple qu'à l'occasion des fêtes, tu ailles voir ce beau-père. Eh bien, l'autre chose, c'est que tu te dis, il y a les questions d'objectifs. C'est ce que je dis. La notion d'importance dépend de tes objectifs. Si tu n'as rien à cirer de sa fille, tu sais que tu ne vas pas loin avec elle, tu ne lui présentes pas les vœux, il dit que tu ne lui as pas présenté les vœux, tu l'oublies, rien ne se passera. Tu n'as pas besoin de lui demain. Ce n'est pas grave. Si tu es sûr que tu n'auras pas besoin de lui. Mais si tu as l'intention d'épouser sa fille, donc de l'endurer jusqu'à sa mort, peut-être que tu n'as pas trop le choix. Donc il faut savoir aussi quels sont tes objectifs dans tes décisions. La manière dont tu traites un beau-père que tu sais que tu vis dans quelques jours, ce n'est pas la manière dont tu traites un beau-père que tu sais que tu auras toute ta vie. Si c'est un beau-père qui a une grande influence sur ta femme, ce n'est pas la même chose que si c'est un beau-père avec lequel ta femme, par exemple, ne s'entend pas. Encore que tu ne sais pas s'il ne s'entend pas aujourd'hui, s'il ne s'entend pas demain. Donc, il faut analyser tout ça là pour décider si tu veux faire la guerre, et je ne vois pas trop à quoi ça sert, ou si tu veux faire la paix. Tu peux faire la paix en te taisant. C'est-à-dire, je suis chrétien, je lui pardonne. Je n'ai même pas besoin de lui dire, il a fait ça, c'est pas grave, tout le monde peut pécher. Même s'il a fait exprès, ce n'est pas grave. Moi, je lui pardonne, je sors ça de mon cœur. Et donc, je lui présente les vœux. Vraiment, sincèrement, je lui souhaite vraiment le bonheur. Ce n'est pas parce qu'il m'a énervé, peut-être que je vais refuser qu'il ait une bonne année. Si par exemple, on te dit, bon, Joël, parce que ton beau-père t'a fait du mal, permets que si un papier pour l'année prochaine, on lui fasse faire deux accidents, qu'on lui donne le cancer, qu'on lui donne le sida. Tu vas signer le papier? Est-ce que tu lui en veux à ce point-là? Non. Donc, dans le fond, sincèrement, tu veux son bonheur en 2013, même si tu lui en veux pour certaines choses. Il faut quand même se poser des questions, c'est fait. Si la réponse est que oui, tu ne lui en veux pas tellement que tu veux qu'il soit malheureux, malade, bon, tu lui souhaites bonne année peut-être sans avoir fait d'explication, bon, tu lui as pardonné dans ton cœur. Mais si tu n'en veux tellement que tu n'es pas même prêt à imaginer son bonheur, peut-être qu'il faut faire la paix dans ton cœur d'abord, ou alors aller le voir comme le dit Abipou, dit, mon beau-père, je voudrais qu'on parle de quelque chose, je t'en veux. Et ce n'est pas normal que je t'en veux. Je voudrais qu'on en parle. Et tu trouves le moyen de crever l'abcès avec lui. Après ça, tu fais la paix dans ton cœur et tu lui présentes tes vœux. Mais si pour différentes raisons tu décides que tu ne veux rien faire de tout cela et que tu préfères déclarer la guerre, ce qui doit être probablement dans l'hypothèse où tu n'attends pas grand-chose de sa fille, là, tu déclares la guerre et tu assumes la guerre. Mais tu ne peux pas agir par hasard et te demander comment tu vas gérer ce que tu as fait. Tu dois réfléchir à tout ça avant de décider de ne pas lui présenter les vœux. Puisque les vœux, la date des vœux arrivera bien, il faudra bien faire quelque chose. Non, à la différence que toi, tu as l'avantage de savoir que le problème se posera des semaines à l'avance. Tu n'as qu'à trancher la question après avoir tout considéré. On a fini ou il y a une dernière question?
J'ai fait un constat. C'est que il y a quelques temps, quelques mois encore, je mentais beaucoup. Et je constate que depuis que j'ai commencé par dire la vérité, même si je ne dis pas tout, les gens avec qui je vis, quand j'entre quelque part, c'est comme s'il y a un rayonnement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je deviens une lumière, façon. Et puis, quand j'entre quelque part, les gens sont enthousiasmés. Et quand je parle, on me suit de près. Ou bien, avant mon arrivée, on dit qu'on vient de parler de moi. Des choses comme ça, je sens ça, quoi. Donc, quand vous parlez tout à l'heure de la vérité, en conclusion, je dis que même si c'est un chemin difficile, il faut quand même que l'homme emprunte ce chemin-là pour rester la lumière parmi les autres, quoi.
Parce que de toute évidence, le chemin de la sanctification en général, au-delà de la vérité, le chemin de s'éloigner de toute forme de péché, jalousie, colère, impatience, même la peur. Moi, par exemple, l'un des péchés que j'ai décidé d'attaquer cette année et que j'attaque le plus avec assez de succès, même s'il me reste des victoires à gagner, c'est la peur. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point la peur vous domine au quotidien. On ne s'en rend pas compte. On prend la plupart de nos décisions à cause d'une peur plutôt qu'à cause d'une envie. Regardez bien. À partir d'aujourd'hui, faites attention à vos décisions. Vous verrez que vous êtes davantage mû par la peur que par l'envie. Vous ne travaillez pas parce que vous avez envie de travailler. Vous travaillez pour la plupart parce que vous avez peur de ne pas avoir de quoi manger. Et il y aura toujours une différence entre la manière dont on travaille quand on a peur de manquer de nourriture et la manière dont on travaille quand on rêve comme moi je rêve, par exemple. Si quelqu'un vient faire un séminaire, parce qu'il ne fait pas le séminaire, il n'y aura pas de 10 000, il n'y aura pas d'offrande, il ne peut jamais se comporter comme celui qui fait un séminaire parce que, bon, il a fini de gérer sa journée, gagner de l'argent et puis il veut faire du bien. On ne peut jamais être pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mais beaucoup de choses dans la vie sont mues par la peur. C'est pour ça que Jésus nous dit, la Bible en tout cas nous dit, 365 fois au moins, ne crains rien, n'aie pas peur, ne doute pas, que rien ne t'effraie, sois calme dans la tempête, tu ne te brûleras pas, tu ne te noieras pas. L'un des messages principaux de la Bible, c'est n'aie pas peur. Satan fera tout pour vous effrayer. Dieu passe tout son temps à vous rassurer. Chaque fois que vous vous laissez dominer par la peur et que vous agissez parce que vous avez peur, vous êtes en fait télécommandé par Satan. Je dirais, nous sommes télécommandés par Satan. Et dans le chemin de la sanctification, l'un des plus grands défis de l'homme, c'est d'arriver au niveau où plus rien ne lui fait peur, à part la peur elle-même. Et c'est ce que Dieu dit, que rien ne vous effraie, que rien ne vous trouble. N'ayez pas peur, fortifiez-vous et prenez courage. Je suis avec vous partout où vous irez. J'ai le regard sur vous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton vous protègent. Même si vous êtes dans le feu, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas brûlés. Vous êtes dans les eaux, pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Il n'arrête pas de dire, quel que soit le problème, même s'il y a une montagne, dites-lui de bouger seulement, n'aie pas peur. Même si elle meurt, ne t'inquiète pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le combat de la foi. Donc, quand, par exemple, pour quelqu'un comme moi, vous gagnez beaucoup de victoires, l'un des combats titanesques avec le diable, c'est le combat de la peur. Et le diable multipliera les épreuves financières, procédures. Et Dieu permet ça, c'est-à-dire c'est comme une école. Il y a les épreuves de mathématiques pour donner les mots de tête à un enfant, ça a toujours existé. Mais quand l'enfant rentre au CI, on lui cache ça soigneusement s'il ne va plus l'école. Quand il est en sixième, on ne peut pas lui montrer les épreuves de certaines choses qu'on fait en mathématiques en terminale. Il ne va pas avoir le courage d'aller en terminale. Mais quand on lui a donné les épreuves qu'il faut qu'il arrive en terminale, là, on ne lui cache plus, on lui sort les épreuves là. Bon, on sait qu'il a vécu assez de choses dans sa vie pour pouvoir regarder les épreuves sans courir. C'est pareil. Dieu vous donne des épreuves. C'est le même mot, ce n'est pas par hasard. Mais il vous les distille au fur et à mesure que vous grandissez. Vous avez dit, Dieu ne permettra jamais que vous ayez un fardeau qui dépasse ce que vous êtes capable de supporter. Aucun professeur ne donne à son élève une épreuve qui dépasse ce qu'il peut résoudre. Et on ne donne à quelqu'un une épreuve sur quelque chose qu'après lui avoir enseigné la chose. Si Dieu vous donne, comme à moi par exemple actuellement, des épreuves sur la peur, c'est parce qu'il estime qu'il m'a suffisamment enseigné sur la peur. Et là doit rentrer une phase où vous relevez le défi d'affronter la peur et de gagner. Mais quand vous gagnez ce genre de choses, vous passez à un autre niveau, vous devenez de plus en plus puissant, de plus en plus terrible, et les gens qui vous regardent ont l'impression que vous êtes des surhommes. Mais vous avez un parcours du combattant avec Dieu. Vous partez du vol, au mensonge, à l'adultère, à la fornication, à ci, à ça. Et Dieu relève le défi un à un avec vous, essayant de vous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Vous devez à la fin être pur, sans tache et sans ride, prêt à rencontrer Jésus, prêt à aller au ciel sans salir le ciel. Je le dis toujours, si on envoie un bandit au ciel, il va violer les gens qui sont censés là-bas pour être en paix éternelle. Donc, si quelqu'un a des tendances à être violeur, même si Dieu l'a mis, il ne peut pas aller au paradis, parce que ça veut dire que les femmes ne seront pas en paix au paradis s'il y a un violeur au paradis. Ou bien, s'il y a un voleur, que Dieu ne le pousse pas assez pour lui enlever l'envie du vol, ça veut dire que personne ne peut laisser sa chambre ouverte au paradis. Alors, le paradis est un lieu de peur, on n'est pas censé avoir peur. Donc, Dieu ne peut pas permettre qu'au paradis, il y ait des gens qui vont créer la peur au paradis. Donc, si Dieu veut qu'un voleur aille au paradis, il est d'abord obligé, comme on dit, et donc, si en tant que père ou mère, vous voulez pouvoir sortir de votre maison sans faire votre chambre à coucher, en laissant 100 000 francs dans vos tiroirs, vous pouvez le faire. Là où certains peuvent faire sortir leur chambre sans fermer. Mais après, vous êtes assuré que vous avez suffisamment éduqué vos enfants pour que même s'ils voient l'argent, ils ne prennent pas. Quand vous avez cette assurance, vous pouvez les mettre dans ce paradis-là. Et Dieu, le Saint-Esprit, par les épreuves, se charge de vous transformer pour vous épurer de sorte qu'au bout du processus, vous soyez digne d'y aller. Et plus Dieu veut vous mener loin, si vous a prévu pour rester dans les bas-fonds ou bien dans les quartiers populaires comme Vossard du Paradis, il n'est pas très exigeant avec vous. Mais s'il veut vous amener dans les quartiers Jacques du Paradis, il va vous fatiguer un peu plus. S'il veut vous asseoir, comme on dit, à la salle du trône, là où lui-même est assis, vous-même vous avez des problèmes parce qu'avant de rentrer là-bas, il faudra quand même avoir plus de grades. Donc, le niveau d'épreuve de votre vie est proportionnel à ce à quoi vous êtes candidat au ciel. Parce que tout le monde ira au ciel, mais on ne sera pas au même endroit, lisez bien la Bible. Donc, vous devez le défi de la peur, là, du stress. C'est des défis, c'est pas, il n'y a pas d'ennemi, ne cherchez pas l'ennemi, vous êtes votre seul ennemi. Quelque chose se passe, on vous annonce une décision. Immédiatement, la peur s'installe. Vous dites, mais merde, pourquoi j'ai peur? Vous vous calmez, on arrête tout. Pourquoi j'ai peur? Et vous raisonnez avec vous-même immédiatement, en balançant aux petits démons qui sont en train de vous énerver la parole de Dieu, jusqu'à ce que vous vous sentiez en paix. Alors, dites, Seigneur, merci, et vous continuez. C'est un combat contre soi-même, mais ce combat se joue dans votre tête. Si vous gagnez ce combat, rien ne peut vous vaincre. Mais si vous le perdez à faire de chrétien, là c'est à la bouche. La puissance du chrétien vient de ces choses-là. Vous allez voir les mêmes dans le monde, les grands maîtres japonais, chinois, vous allez voir que dans leur processus d'initiation, il y a toujours des épreuves pour dompter la paix, la peur, la maîtrise de soi, la patience, le courage. Ces vertus sont naturellement porteuses de puissance et vous devez les développer.
On n'y pense pas toujours à lui demander, mais quand on demande, il donne toujours. J'ajouterai un témoignage que quand vous demandez, vous devez avoir le cœur en joie. Il se peut même que si vous n'étiez pas trop énervé au moment où vous avez demandé, vous aurez reçu immédiatement. Mais votre état d'esprit, de colère, ne permettait pas à ce moment-là de recevoir. Il a fallu que vous vous calmiez, comme je dis, que le silence revienne dans votre cœur pour que vous perceviez cette idée. Donc, le défi, c'est que face au problème, ne perdez pas du temps à vous énerver. Parce que pendant votre colère, dans tous les cas, Dieu n'est pas là. Il ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est en colère, ça, c'est clair. Calmez-vous le plus rapidement possible, parce que plus vite vous vous calmerez, plus vite vous verrez la main de Dieu dans votre problème.
C'est bizarre, hein? Mais le plus dur à faire, c'est de refuser de faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Il dit de ne pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Quitte à être fou, il vaut mieux être fou que d'être stressé. Hein? Vous allez voir que les fous n'ont jamais de soucis, en réalité. Tout le monde plaît le fou, mais en réalité, vous n'avez jamais vu un fou qui a des soucis. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué que les fous n'ont jamais de soucis? Et il a raison. Écoutez, quand vous avez la paix du cœur, vous voyez les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, ils sont de grands patrons, ils courent, il a du stress, il n'a pas de temps, son agenda est surchargé. Ils pensent que vous qui êtes de bonne humeur tout le temps, vous êtes fous, vous ne connaissez rien à la vie. Mais il ne sait pas que c'est lui qui est fou. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. Quand le Saint-Esprit est avec vous, les gens vont dire que vous êtes fous. Mais s'ils savaient à quel point c'est eux qui sont fous. Que Dieu vous bénisse.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute de ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygon. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution